Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par LAM UA.
Ah, les nouvelles technologies, les nouveaux comportements et ces nouvelles névroses. C'était l'intro qu'on avait fait dans le premier Studio 404. 7 ans plus tard, toujours autour d'une table, ces personnes n'ont pas lâché le morceau. C'est le Studio 404, votre émission de société numérique avec la même équipe. Et nous sommes en 2019. Bonne année à tous, les amis.
Bonne année.
Bonne année.
Meilleurs vœux.
On s'est pas vu depuis l'année dernière.
Comme le
rien
temps
n'a changé.
Hey, quelle est ta bonne résolution là?
Non.
1024 par 1980.
Incroyable. Incroyable. Nous sommes de retour donc pour cette nouvelle année avec aucune nouvelle résolution puisque on a toujours la même résolution. La bienveillance.
La bienveillance en marque de fabrique.
Année 2.
Voilà.
En deux.
Ça veut dire qu'il y a une année hein, pour Daz.
Ah bah excusez-moi mais si vous avez pas vu c'est que vous êtes aveugle.
Ça commence bien l'année de la bienveillance. Fibre Tigre, Mélissa, Daz, Sylvain, Ghislain à la Réal, Sam à la Prod, toute la bande est réunie pour ce premier numéro de l'année 2019. On vous a gâté avec des très très bons sujets. Mais avant de démarrer, c'est le moment où on remet tout en place. C'est le petit moment un petit peu organisation, ressources humaines, management, projet, rétro-agenda. Voilà, 360. Le camp numéro combien, Daz?
Officiellement le 3.
Non, le 5.
Le camp numéro 5.
On ne compte pas les camps hivernaux, ce ne sont pas des camps puisque vous n'êtes pas dehors.
Le camp numéro 5 aura lieu du 1er au 5 mai 2019. Nous avons la date comme
sur
ça.
Sur l'île de Pablo Escobar.
Sur l'île de Pablo Escobar.
Il y a des jets et des cabanes.
Il y aura des jets, des cabanes, il y aura des mannequins, des influenceurs, il y aura des villas si vous mettez l'argent.
Bon. On va rajouter des villas au dernier moment.
Bon, on parlera de Fédéral Festival juste après. Non, plus sérieusement, il y aura vraiment donc le camp. Ce coup-ci, on peut vous prévenir en avance, 1er au 5 mai. On n'a juste pas le lieu, donc on est en train de décider, de discuter en ce moment du lieu. Venez nous rejoindre dans les discussions sur le forum dequalité.com. On a un sujet qui a été ouvert par Sam pour vraiment essayer de trouver les lieux. Petite parenthèse, si c'était dans les gorges du Verdon, ça ferait plaisir à tout le monde.
J'aimerais quand même que les possesseurs de tentes Fresh and Black se manifestent sur le forum pour qu'on puisse d'ores et déjà tracer les frontières de notre quartier. Car et je si, compte bien ne pas mettre les Quechua.
Et si vous n'êtes pas équipé, sachez qu'un potentiellement un sponsor Fresh and Black pourrait surgir.
Fresh and Black le sponsor.
Ah bah oui.
C'était la blague de l'année dernière avec Decathlon, ils vont vraiment le faire.
Et ben bah, je sais pas sur Twitter.
Ah le mec de Quechua, il avait l'air gentil.
Ouais, il nous parlait, il disait oui, il y a peut-être moyen et tout, je lui ai dit bah écoute, on se reparle en mai.
J'espère qu'il a beaucoup avant. De pouvoir avec lui.
Donc voilà, venez nous voir en tout cas sur le forum de qualité pour en discuter si vous êtes des habitués du camp ou si vous n'êtes jamais venu au camp, comme Mélissa par exemple.
Surprise.
Elle va tellement nous planter 2 jours avant.
Ah non, mais en fait, on a un truc avec Gonzdance Audible, on est obligé d'aller enregistrer en Allemagne.
Par contre, si on ouvre le camp, enfin si on l'annonce et que vous avez envie d'y aller, prenez... Dès le premier jour, la place.
Voilà. Oui, parce qu'il y aura moins de place qu'au camp numéro 3.
2.
3.
C'est un peu aussi pour ça, mais non, mais il y a déjà un Game of Thrones de gens qui disent, bon, vous me réservez déjà 3 places, vous me réservez une place.
Ah, il n'y a pas de réservation.
Si, les VIP ici.
Quoi?
Les VIP. Ah oui, on n'a jamais fait de réservation.
Plus de 10 000 followers, vous avez une réservation.
Même pas
pour. On a des comptes et des gros comptes. On a des petits comptes avec nous. Non, si vous avez une Fresh and Black, vous avez déjà une place réservée.
Tu veux, Fibre, qu'on fasse une petite politique? Comme ça, des tickets VIP, des tickets early birds, des
alors,
choses comme ça.
Je pense que c'est très hypocrite de notre part de dire qu'elle n'a jamais existé.
De quoi? Mais à qui on a réservé des places en avance?
À personne.
J'apprends quelque chose sur.
Non.
C'est lui qui gérait la billetterie.
Quel petit serpentin celui-là.
Mais nous, on paye pas nos places.
Mais j'essaie de créer une légende. J'essaie d'être votre Billy McFarlane et vous, vous êtes là, votre transparence, votre honnêteté, vous me dégoûtez.
On rappelle qu'il n'y a que Fibre Tigre qui admire Billy McFarland. Comment ça va, Fibre Tigre?
Ça va bien. Non, mais ne me pose pas la question en premier parce que je ne veux pas faire la même reco que Mélissa qui avait absolument une reco à faire avant moi.
Ah, t'es sympa. T'es woke, hein.
Arrêtez de dire que je suis woke. Arrêtez de dire que je suis woke. Je ne suis pas du tout woke. Je suis en dehors du système du woke.
C'est que dire que tu n'es pas woke, c'est dire que tu es arriéré.
Oui.
Non.
Mais non, il est juste de droite.
Je suis neutre au niveau woke. Voilà, je suis
woke neutre,
neutral, woke neutral.
Sur toutes les questions de type woke, je n'ai pas d'avis. Je
deviens remercie la personne qui partage ta vie de te rendre woke chaque jour.
C'est clair. À coup de baffe dans la gueule, mais c'est une manière de réveiller les gens, de les woker. Comment ça va, Mélissa ?
Merveilleusement bien. Non, franchement, il y a deux heures, j'étais en PLS sur mon canapé pour ma reco culturelle que je dirai après du coup.
Ah, c'est vrai, tu peux la cacher.
Non, mais les gens, ils se prétisent et postetisent leurs trucs, là, c'est insupportable.
Ah ouais,
parce que Mélissa et moi, nous sommes tellement.
Ouais, on partage tout.
Vous faites tout pareil, ouais.
Cette émission.
On s'est un peu battu pour la chronique et la reco.
Ok, tic et tac, quoi.
Je sais pas ce qui nous arrive alors qu'on était les plus opposés habituellement.
Ouais, c'est vrai. Enfin, sauf certaines nuits. Bref, dans l'esprit des fibres.
C'est pas woke ce que tu viens de dire là.
Depuis quelques temps, elle est devenue entrepreneuse. Ouais, c'est tout.
Comment ça va, Daz?
Ça va super bien.
Cette année commence fort, hein.
Ça commence très très fort, oui. Oui, ça va très bien. Moi, je suis bien, là. Ma chronique est prête. Je l'ai quasiment rendue à l'heure.
Le quasiment est important.
Oui, le quasiment, ben l'heure surtout. C'est l'heure qui est importante. Non, ça va super. Je reviens de vacances. Je suis reposé, frais et dispo.
Tu es animateur d'émission ?
Je suis animateur d'émission, oui, voilà. Par défaut. C'est-à-dire qu'on me confie les rênes des trucs quand les gens décèdent. Donc voilà, j'anime le JDH. Et c'est une très belle saison qui se prépare. Je
très
pense.
Bien.
Voilà.
Bienveillance.
Bienveillance toujours. Bienveillance en deux. Bienveillance.
Bienveillance. En
bienveillance.
On verra. Comment ça va, Sylvain Palais ?
Très bien.
Oh là, c'est
je
très bien décidé.
Je suis en vacances.
Ah ouais ?
Depuis quelques heures. Ouais.
T'es freelance, t'es en vacances tout le temps, normalement.
Exactement.
Plutôt jamais.
Non, mais je pars en voyage, je pars au Japon demain.
Oh là,
ah ouais.
Et du coup, je suis excité. Je suis dans ce moment un petit peu entre l'excitation et le...
Ah mais
l'excitation. Voilà, tout simplement.
Ah mais tu vas faire du ski en plus.
Je vais faire du ski avec mon petit papa.
Je suis désolé, mais un hélicoptère près, c'est très mauvais bilan carbone. Il y a rien de pire.
Ah ouais, c'est sûr. Non mais c'est clair.
C'est vrai qu'aller skier au Japon, c'est pas le truc.
Bilan carbone absolument horrible. Bon après, on va pas faire que du ski, on va aussi faire du tourisme. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Fibre. Très dur à compenser d'ailleurs.
J'essaie de te taquiner, mais.
Non, je le vis assez mal. Je le vis assez mal.
J'avoue. J'avoue. Ah, depuis qu'on a rencontré Surf Rider. Il nous a éveillés, mais il nous a rendu notre vie très malheureuse. On fait des tas de choses et on est malheureux.
Mais ta vie, ça veut dire que t'es un peu woke.
Mais tu le fais quand même.
Mais toi, tu vas quand même au Japon.
Si t'es éveillé, c'est que t'es un peu woke.
Non, arrêtez de dire ça.
Mais si.
On en reparlera.
Écoute,
on en reparlera.
Mais c'est pas grave, Fibre, tu sais. Personne va être jugé pour ça.
Arrêtez. Non, je veux pas être dans votre histoire où vous faites des trades et des shitstorms sur Twitter. Je veux
laisser pas ça être woke, Fibre. Vidéo.
C'est pas ça être woke, Fibre, enfin.
Je suis woke de l'empreinte carbone et j'ose même plus aller en vacances. Alors arrêtez de m'en woker.
Non, mais ça tombe bien parce que t'es radin, tu l'as dit toi-même.
Est-ce que Laurent Wauquiez est woke d'ailleurs ?
Laurent Wauquiez.
Laurent Wauquiez.
Oh là là.
C'est drôle, c'est joli. Ça. Si seulement. Allez, on finit cette intro. Ah non, il y aura les petites recos culturels, mais on voudrait remercier nos Patreons.
Ah.
Ah, ça, t'es bien éveillé sur le sujet, Fibre. Hein,
oui.
Hein, en train d'harceler les gens sur Twitter, là.
Il faut bien payer nos sweatshirts University of La Banane.
qui vont vraiment arriver. Hein.
Qui vont vraiment arriver.
Les gens pensent que ça n'arrivera pas. Mais
c'est con parce que le quartier arriver. A été renommé les Amandiers sur Google.
Mais c'est pas grave, on écrit la légende.
Il y aura un easter egg. Non, mais
il
y aura un easter egg les Amandiers dans le sweatshirt University of La Banane.
Ah, ok, d'accord.
Ne vous inquiétez pas. On est dessus, en tout cas. On voulait remercier du coup les Patreons et ils sont très nombreux, les nouveaux Patreons. On a une petite liste. Un peu comme dans le club Dorothée, quand votre nom apparaissait au générique.
Allez vite, hein,
tu veux faire ça pendant que je fais les Vous êtes géniaux. On est parti pour 9h02. Alors merci Alexis, Laure, Fofana, José, Aline, Sonia, Montreyoua, Mike, Florentinus, Olgerdé, Alan, Yvan, Louis, Manuel, Marc, Alexandre, Paul, Jean-Noël.
Une tourtelle.
Je peux pas
m'empêcher dès que j'entends Paul, putain.
Ah, c'est pas possible. Désolé.
Enfin, Jean-Noël, ils ont tous des noms un petit peu hyper communs.
Non, mais commencez pas à vous moquer des Patreons, ça suffit, là. On fait des bisous à Paul et à Jean-Noël.
Jean-Noël, sérieusement?
Normalement.
Allez là.
Bref. Robin, Pascal, Vébouf, Viat Viat, Simon, Alban, Morgane, Amina, Raphaël, Quentin, Flemos, Brice, Guillaume, Noah, Anthony, Franck, Joe, Takoa, Marie-Liès, Benoît, Chris, Shigepuyen,
oula.
Yo, Michael, Cyril, est-ce que c'est Cyril K ? Je ne sais pas.
Ah.
Prénom, Donc ça, c'est, tu sens le, ah, c'est qui a donné, qui a autre chose à faire.
C'est Fibre, Fibre qui met des faux noms.
Oh là là, on a encore augmenté le Patreon, regardez.
Le gentil Biri du Patreon, c'est, il fait voter des gens morts. Jérôme, Grégoire, Romain, Gratas, Cyril, Spillman, Stérigamif, ou Stérigamif, Rémi, Dimeglio, Jonathan, Vincent, Enzo G7, Edouard, BG Box, GDZL, Christophe, Alexandre, Pablo, Jocelyn, Terry, Pierre, Notet, Simon, Mireille,
ah.
Mine, Mine qui est une habituée du camp d'ailleurs, Olaf, Eric, Pascal, Guillaume, Cécile, MK90, Jean-Damien et Mathieu. Merci à vous tous de rejoindre notre Patreon.
Merci les Patreons.
Et grâce à vous, on va faire encore des très belles choses cette année. Juste avant de démarrer l'émission après l'intro la plus longue de l'histoire de 404, c'est peut-être ça les nouveautés de 2019. Du coup, vos recos culturels avant qu'on démarre.
Alors... Mélissa.
Mais de quoi va-t-elle parler ?
On se demande !
Un podcast de Louis Média.
Non, j'en ai plein, cela dit. Sorti un super pour Canal+.
Ça s'appelle Émotion.
Non, Engrenage. Mais Émotion, ah oui. Super aussi. Engrenage, Émotion, ça commence par des E cette année.
Entre.
C'est comme les chiens, il y a des années podcast, il faut choisir la
date. Avec des lettres. Non, Fire Festival.
Ah là là.
Sur
là.
Netflix. Le fameux... Et apparemment, il y en a un autre sur Hulu.
Oui.
Qu'il faut aussi regarder, mais je n'ai pas vu. Arrête de me tousser dans l'oreille, s'il te plaît, Fibre. Merci. J'ai pris ton taroco culturel, mais t'es pas obligé de me tuer. Donc, ce documentaire est ouf. Du coup, je vais rien vous dire de plus que regardez-le, s'il vous plaît. Parce que c'est une chronique de Studio 404 en direct.
C'est, genre,
c'est à la fois une chronique de 404, un vrai épisode de Black Mirror.
Et un peu le camp aussi.
Le camp, il y a tout. Franchement, il y a tout.
Enfin, elle ne saura jamais, elle n'a jamais été au camp. Ah, elle ne mais... saura jamais quoi ça
ressemble. Non, mais son ami a dû la débriefer.
Son bon ami.
Son bon ami.
Là, il tourne son regard. Par
c'est vrai
son
que compagnon qui est juste à ma droite. Pour avoir un petit bureau de commentateurs sportifs au milieu du Fire Festival avec tous les gens de 404 en train de commenter ce qui se passe. On aurait été vraiment très très bien.
Du début à la fin, de la campagne à la réalisation.
Voilà. Fibre Tigre, donc tu voulais aussi même recours.
Moi, je voudrais recommander un documentaire sur Netflix.
Oui.
Alors, sur une histoire absolument folle où il y a une opération marketing parfaite. Parfaitement faite.
Ah.
Il y a beaucoup d'ambition. Un événement qui crée beaucoup d'ambition. Il y a un commercial
de génie.
Et en plus, un mec courageux. C'est-à-dire que...
En pleine tempête, il reste là.
Couille, ouais. Et il reste sur le pont avec toute son équipe.
Tu veux dire un mec qui
dès qu'il y a quelqu'un qui a une pensée négative, il le met dehors, il remplace. Tu vois, il est proactif.
Proactif.
Et jusqu'au bout, il se bat. Et effectivement, ça se passe pas très bien. C'est un peu la cata. Mais vachement, moi, je respecte ce mec vachement.
Il a
pu rebondir ensuite par la suite.
On dirait que tu parles du Brexit
ou de Star Citizen.
Et je trouve que
Chris Roberts, c'est incroyable.
D'aucuns diront c'est un peu une arnaque. Moi, je dis que c'est quand même vachement plus liquide que beaucoup de Kickstarter.
Le mec est en prison.
Voilà. Mais tu parles de quoi, du coup ?
Du documentaire Fire Festival.
Sachez que de mon point de vue, vraiment, j'étais sur mon canapé, je me disais, je vais plus jamais croire en personne. Fibre, il était là, ouais, grave, mon gars, vas-y. Non,
quand j'ai vu l'opération Instagram, j'ai dit, c'est génial.
N'en dis pas trop pour les gens qui n'ont pas
vu. Ça commence, le mec, il fait une opération Instagram rondement menée. Et si ça s'était bien passé, le mec ce serait un cas d'école et tout le monde se branlerait sur lui.
Ah bah le mec c'est un cas d'école. Hein. Et
le mec,
pas, hein.
le mec, il a fait le truc parfait. Ça s'est planté sur certains petits aspects.
Juste ce qu'il avait promis en fait. C'est ça le.
N'en dites pas plus.
Mais tu peux pas.
Il faut que les gens constatent.
Tu peux pas reprocher à un commercial de mentir. C'est excellent un commercial qui ment.
Allez voir le documentaire et dites si vous êtes Team Mélissa ou Team Fibre.
C'est très intéressant. Par rapport à la psyché générale de la personne, c'est très intéressant.
On est en train de faire des petites fiches Excel et savoir qui on invite au groupe.
Mon cher Sylvain, quelle est ta reco pour ce mois-ci?
J'ai une reco anime, une reco
oh là là
manga,
une mangas, reco,
mangas, les mangas et les animés. Psychopass, je sais pas si vous avez vu Psychopass, j'ai trouvé ça génial, je l'ai bingé très très rapidement.
Il faut encore un Crunchyroll ou un truc comme ça?
Il faut un Netflix.
D'accord. Ah bon, ça va.
Il y a deux saisons, la première est mieux que la seconde. Futur Japon 2100. L'île s'est refermée sur elle-même, comme au 18e siècle.
D'accord.
Et ils ont un système qui s'appelle le système Sibyl, qui permet de détecter les crimes avant qu'ils aient lieu. Enfin, les individus qui vont commettre des crimes.
Minority Report.
Ouais, sauf que c'est tout fait par un algorithme auquel les gens n'ont pas accès. Donc c'est pas open source.
D'accord.
Donc on ne sait pas vraiment comment ça se calcule. Le fait est que ça fonctionne et que tout le monde est très heureux. Et tu as une police spéciale qui va s'occuper de justement traquer ces personnes-là. Mais il y en a tellement peu que finalement ils sont juste 3 ou 4, la police spéciale. Genre, ils sont en sous-effectif. Voilà.
Et, je me le note.
Et un jour, il y a un mec qui débarque et le mec commet des crimes. Mais ils ne peuvent pas le tuer parce que son psychopathe, donc le score de criminalité, il est en dessous de 30. Et du D'accord. coup, ils ne peuvent pas se servir de leur gun pour l'abattre. Qu'est-ce qu'on fait?
Voilà. Ah,
c'est le principe. C'est hyper, hyper cool, hyper
bien
foutu.
Black Mirror.
On dirait Black Mirror.
Et on dirait Black Mirror.
C'est la première fois que je vois un anime où il cite des sociologues à Tire-Larigot, donc forcément ça m'a énormément.
Oh, il y a du Bourdieu.
Il y a du Bourdieu, il y a du Michel Foucault. Hein,
c'est Bourdieu.
Oui, c'est ça.
Nani
c'est Bourdieu. Panopticon. Michel Foucault. Génial, c'est génial, c'est excellent. Je vous invite à le regarder, c'est vraiment cool.
Très bien. Psycho. Psychopathe.
Oui, c'est un jeu de mots.
Ah, pas mal, j'avais même pas vu. Putain.
Ah, c'est le multipass.
Ok. Ouais.
Mon cher Das, pour finir, ta reco.
Oui, une reco. Alors, une reco Prime Video, donc ouais. Amazon, parce que une fois n'est pas coutume. C'est une série policière qui s'appelle Bosch,
ouais.
du nom du héros qui s'appelle Harry Bosch, qui est un inspecteur de la brigade homicide d'Hollywood. C'est un personnage qui est écrit à la base. C'est un personnage de roman écrit par Michael Connelly. Et c'est excellentissime. Il y a
c'est
trois saisons.
Par rapport à Jack Ryan, parce que t'avais aimé Jack Ryan.
Non, aucun rapport. Aucun rapport. C'est vraiment, c'est le LAPD, c'est The Wire, mais côté flic, et c'est super cool. Okay.
C'est pas l'acteur qui joue dans Lost?
Oui, c'est celui qui jouait le méchant, Titus Welliver, qui est très bien dans le rôle. Et, l'univers, en fait, de Michael Connelly, parce qu'il y a Harry Bosch, mais il y a aussi, à la base, un avocat.
Ouais.
Qui s'appelle Mick Haller, qui est joué par Matthew McConaughey dans La Défense Lincoln.
D'accord. Mm-hmm.
Et donc, c'est le même univers. Donc, regardez La Défense Lincoln, qui est aussi sur Netflix. Puis
le Colony Cinematic Universe, quoi.
Mais franchement, c'est une excellente série policière. La meilleure que j'ai vue depuis très, très longtemps.
The Wire, c'était aussi côté policier.
Oui, mais c'était quand même un gros focus sur la partie gangster municipal. Mais c'est vrai, tu as raison.
Gangster municipal.
C'est trop mignon. C'est comme la police municipale, mais c'est de l'autre côté.
Bon, très bien. Ben, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé des Patreons, on a parlé du camp, on a fait des blagues de Nouvel An. On a acté que Fibre était woke. On a fait les recos culturels. Bref, on est bien. Et normalement, donc le mois prochain, j'avais oublié de vous le dire, mais parce que c'est pas encore acté. Le mois prochain, donc vers la fin février, normalement peut-être le 21, on va essayer de voir si c'est le 21 février, on refera un bon vieux enregistrement en public à Paris, parce que ça nous avait manqué de voir tout notre public, notre petite communauté de hipsters, geeks et nerds. Donc voilà, normalement on essaie de faire ça jeudi 21 février.
J'espère que le public sera très féminin.
Ah oui. Bah, vu les patrons, il va falloir travailler un petit peu là. Hein.
Non mais les gens Noël, tout ça, c'est des Canadiens. Hein.
Mais pourquoi?
Qu'est-ce qu'ils appellent Jean Noël?
Vous connaissez des gens Noël, vous?
Bah, moi, je connais des gens Benoît. Donc,
ah bon? Tu connais Jean Benoît?
En passant.
À lui, c'est un... Allez, c'est parti avec la première chronique de Fibre Tigre. Pardon. Allez, on est parti.
Sujet numéro 1.
Il vous est plus facile d'écrire un livre que de récupérer un courrier à la poste? Écoutez bien la chronique qui suit.
Un article de BuzzFeed intitulé « Pourquoi les millennials sont la génération burn-out » a fait beaucoup parler de lui dans la dite génération, mais aussi à 404. Enfin... pour être plus précis, Mélissa et moi. Donc Mélissa y retrouvait particulièrement une part de son mal-être, de ses névroses. Et moi, personnellement, il m'a fait beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Il m'a fait remettre en cause beaucoup de mes certitudes. Et il va peut-être m'aider à me soigner en me faisant comprendre que moi aussi, je suis malade. Le constat de sa propre maladie, c'est le premier pas pour soigner. Et vous, qui écoutez en ce moment un podcast, vous êtes certainement malade vous aussi.
Carrément.
L'article commence sur la vie d'un millénial. Appelons-le Zayden. Zayden, il a un problème. Il n'arrive pas à faire des petites tâches administratives. Ouvrir son courrier, faire des démarches pour obtenir sa carte d'électeur, renvoyer des fringues commandées et qui ne lui vont pas. Ça le saoule, il n'y arrive pas. Ça lui fait peur quelque part. Il a un blocage qu'il n'arrive pas à dire, il n'a pas envie de le faire. Ça pourrait être de la fainéantise, mais il n'arrive pas à le faire. Et d'ailleurs, ses parents... quand ils constatent des trucs, ils disent « Bon, Zayden, c'est un gros flemmard. » Et quand j'ai raconté cette histoire à Lame, Lame a dit « c'est moi. Enfin, » quand je lui ai dit « t'es en train de raconter ma vie, là. » c'est ce qu'il a dit quand je lui ai exposé la situation. Mais voilà, Zayden n'est pas un gros flemmard. L'article explique, avant de dire qu'il a tous ses problèmes, que Zayden, il publie des histoires, il écrit un livre en ce moment, il vient de faire un gros déménagement, il fait du sport, il paye son loyer, et il prévoit de faire des voyages. Le problème de Zayden, c'est que bien qu'il ne se lève pas le matin à 4h30 en criant « énergie », il est organisé. Il est peut-être trop organisé. À chaque moment de sa vie, il fait le meilleur choix et il fait un calcul de rentabilité. il choisit ce qui lui rapportera le plus par rapport à son investissement en temps. S'il a le choix entre écrire une page d'un futur livre et s'inscrire sur les listes électorales, il est beaucoup plus rentable pour lui d'écrire la page d'un futur livre. Parce que l'écriture de son livre, ça va alimenter ses réseaux sociaux, Working on My Novel sur Twitter. Parce qu'aujourd'hui, les cycles de publication sont accessibles à tous. Dans le pire des cas, même si Zayden il écrit une merde, eh ben, son livre il a 100% de chance d'être publié sur Amazon. Tandis que voter, eh ben, voter, c'est la négation totale d'une action marquante. Le vote il est anonyme, il se dilue d'un point de vue du millénial, c'est un jeu où on perd à tous les coups, on élu Trump. Ce biais de comportement est induit par une apparente lisibilité de nos actions sur Internet. Le fameux « vous êtes quantifié, on vous voit la quantification ». Mais ça va plus loin. Autrefois, si Zayden, il était publié, donc on parle dans l'ancien temps, avant Internet, il recevait au bout de 6 mois un coup de fil de son éditeur qui disait « mon petit gars, c'est fantastique, t'as vendu 17 000 unités ». Mais son action de production, écrire le livre, était complètement déconnectée du résultat. Il n'écrivait pas pour avoir ses 17 000. Il écrivait dans l'espoir de faire quelque chose, et puis, de façon déconnectée plus tard, il avait son résultat. La plupart de ses activités ne produisaient pas un résultat quantifiable immédiatement, et que l'on pouvait corriger immédiatement. Ses activités se satisfaisaient à elles seules, c'est-à-dire j'étais heureux d'écrire juste parce que j'écrivais. Et elles étaient rigoureusement équivalentes en importance au fait d'ouvrir son courrier. C'était aussi important d'écrire que d'ouvrir son courrier. Donc du coup, on ouvrait son courrier. Ça faisait partie de la vie. Aujourd'hui, si Zayden tweet, il peut faire une prévente sur son bouquin. S'il ouvre son courrier au lieu de faire ce tweet, il retombe dans le monde du papier qui produit des résultats à trop long terme, des résultats invisibles sur des problèmes qui se résoudront sans lui. Les courriers deviendront recommandés, s'accumuleront. Un jour, il prendra le temps de s'en occuper le plus tard possible, n'est-ce pas, l'âme ? Et comme ça, au lieu de traiter un courrier en 10 minutes, il traitera une énorme montagne de courriers hyper urgents en 10 minutes. Et il aura l'impression de faire quelque chose de super valorisant, super intéressant, super important. Zayden agit comme ça parce qu'il a été formé à ça toute sa vie. Les jeux vidéo, les stratégies de prix Amazon, la photo parfaite sur Instagram, la synergie entre un voyage et une belle photo qu'il va publier sur Instagram, jusque dans les interfaces de toutes les apps qui manipulent quotidiennement et qui hurlent optimisation. Regardez Netflix ou Pornhub en vitesse 2. Souvenez-vous de la chronique qu'on avait, il y a des gens qui regardent des séries ou du Pornhub en vitesse 2. Tout ça, c'est rentré dans notre tête, c'est implicite. Il y a un discours de l'intensité et de l'optimisation. Donc souvenez-vous chronique de Sylvain, les évangélistes énergie qui invitent à méditer. N'invitent pas simplement à méditer, ils invitent à méditer à 6h du matin, dans le cadre d'une routine minutée. Ils le font pour mieux endurer un emploi du temps infernal. Ils surcommuniquent sur le fait qu'ils méditent. Ils méditent donc sous pression, donc ils sont dans l'état inverse d'une méditation. La méditation devient un travail. Les vacances deviennent un travail. Les vacances sont connectées. L'article dit, mot pour mot, les vacances ne résolvent pas le problème. Et Mélissa, qui est sur ma gauche, elle en sait quelque chose. Elle a été incapable de venir à aucun de nos 4 camps, alors qu'à chaque fois, elle a dit, j'ai envie d'y aller. Avant, il y avait le FOMO, le Fear of Missing Out. Donc, la peur de
louper quelque
que Mélissa avait peut-être de louper quelque chose qui arriverait alors qu'elle est déconnectée. Mais en fait, c'est le FOMAO, le Fear of Missing an Opportunity, la peur de perdre l'opportunité de faire quelque chose pour sa vie. Mélissa, elle nous dit, je la cite dans le texte, « Je ne peux pas venir un jour de pont au camp, donc par exemple entre le 1er mai et le 3 mai, car je peux recevoir un mail important le 2 mai. » On lit dans ses yeux que quand elle nous dit ça, elle comprend que son discours il est bizarre, hein, qu'il y a une sorte d'absurdité, mais qu'elle est incapable de lutter contre. Et à côté, le 2 mai, elle sera au travail, donc elle ne sera pas au camp, elle n'ouvrira pas son courrier non plus, elle aura mieux à faire. Se déconnecter réellement, donc réellement, sans faire un post-médium à ce sujet pour mieux revenir et faire un autre post-médium expliquant les grandes leçons qu'on a tirées, donc la vraie déconnexion, ça a longtemps été vécu comme un idéal de libération dans l'ère Internet. Et d'ailleurs, Mélissa a dit se déconnecter, c'est un petit peu sa marotte. Mais en fait, ce n'est pas du tout une libération, c'est une condamnation, c'est une punition, c'est l'exil suprême. Se déconnecter dans une société connectée, c'est quitter cette société, ce n'est pas la solution. Alors comment se soigner de ce grand mal, de cette chose qui sera peut-être le stress, le stress qui est arrivé dans les années 80-90, peut-être ce mal qui n'a pas de nom, comment s'en soigner ? Faut-il compter sur la société capitaliste pour déconstruire les mécanismes d'optimisation qui tuent silencieusement une génération qui va tomber malade d'un coup, déprimée, s'autodétruire, une maladie que les vieux appelleront la fainéantise ? Je crois pas trop, je suis pessimiste à ce sujet. Ma solution, j'ai pas de solution. Peut-être faudra-t-il déjà constater la présence du FOMAO, en faire des posts médiums, et que des gourous de passage, des Isines, des Maximes, et les autres nous donnent leur solution miracle. Peut-être dans cette merde, il y aura quelque chose à prendre. Peut-être que la société connectée nous a déjà, comme la société capitaliste, capturé sans espoir de retour en arrière. Mais en tout cas, si en attendant vous avez une idée, je suis preneur.
Bravo, Fibre. C'est un discours très woke, hein, j'ai envie de te dire. C'est très éveillé, très réveillé.
C'est vrai que le wokisme est total.
Hyper woke.
Est-ce que je peux fact-checker ta chronique?
Parce que, alors, pour les auditeurs qui n'entendent pas, enfin, qui ne voient pas, pardon, qui entendent tout, mais qui ne voient pas, Mélissa a très silencieusement pivoté la tête de gauche à droite en disant non, c'est pas moi, c'est pas moi.
Donc, elle est pas encore en train de se soigner, tu vois, elle est dans le déni, elle est même pas dans la première phrase.
C'était sur la vérité du mail du 2 mai, parce qu'il me dit, je la cite dans le texte. C'est faux.
Ah bah
je
dis
pas
fibre.
Que sur le fond c'est pas un peu vrai. Je dis voilà. Que sur le
sur la forme
dire
c'est
machin
faux.
C'est faux.
Mais dans le fond il a raconté
je
un truc un peu.
Mis au camp.
Oui
c'est vrai.
Avec aussi une peur de dire si je pars 4 jours c'est compliqué.
Si je pars 4 jours dont un samedi et un 1er mai mais bon.
Ce que je trouve fascinant c'est que tu as dit en introduction que tu étais malade. Ouais. Tu vas passer ta chronique à essayer de guérir Mélissa.
Ouais. Merci Sylvain. J'ai essayé de lui dire dans les commentaires du Google Doc et il était là genre, mais Mélissa, tu es névrosée. J'ai dit, mais Fibre, je suis pas névrosée.
Mais moi je suis malade. Genre, mais
pourquoi tu dis à la seule meuf de cette équipe que je suis névrosée?
C'est un article qui est paru dans quelle publication?
Dans BuzzFeed. Ouais.
Mais il est excellent.
C'est un article de BuzzFeed qui a changé ta vie et ça, en soi, déjà, c'est quelque chose de...
Non, mais je pense que non seulement il a changé
Daz,
ma vie,
là,
mais.
Tu fais du comfort Daz.
Ah oui, c'est clair. Du comfort Daz.
C'est pas mal.
Alors, Daz Spelling de 2018, je pense que Comfort Daz,
c'est bien. Non, c'est bien.
Genre, ah, oh, c'est pas suite, c'est bon, je peux y aller.
Bah attends, non, mais c'est vrai.
En vrai, c'est un article hyper important et je pense qu'on aurait dû faire une émission entière sur le
dessus. C'est une meuf qui est à l'origine, elle a fait une thèse sur les célébrités. Genre, c'est une meuf hyper pointue qu'ils ont fini par recruter en tant que journaliste. Et donc là, il y a genre.
Parce que si c'était Hugo Clément qui parlait, tu serais aussi.
Non, mais en fait, elle est partie de ce truc de genre, je vais pas bien, mais je comprends pas pourquoi. Et elle a vraiment analysé ça pendant un an.
C'est très intéressant.
Donc concrètement, le je vais pas bien, je comprends pas pourquoi, c'est parce qu'on se met à quantifier les moindres actions
à optimiser.
Et à ne vouloir prendre que celles qui rapportent des points dans notre barème.
Un des points, parce que Mélissa va attaquer un des autres gros points de cette. C'est pas vraiment un article en fait, c'est on dirait presque un essai.
Ouais.
C'est un essai documenté, un essai de journaliste.
Personal essay, quoi,
voilà, donc c'est quelque chose d'assez long, mais effectivement un des premiers gros syndromes et qui est cette sorte de procrastination mal placée, cette administrativophobie, je sais pas comment on dit.
Phobie administrative.
Ouais. Phobie administrative. cette impossibilité de faire des petites tâches du quotidien, cette auto-charge mentale qu'on se met, etc. Là où en même temps, on va faire des efforts complètement fous pour effectivement
écrire des chroniques,
faire des podcasts, partir en vacances dans des endroits complètement dingues, avoir un job inspirant et plein de sens, etc. Et voilà, et l'impossibilité de s'inscrire à des listes électorales, renvoyer un recommandé, gérer les 31 jours de retour pour des fringues, enfin des choses qui paraissent en fait du coup triviales, qui rendent cette sorte de maladie dont parle Fibre triviale, c'est-à-dire que les gens vont la juger d'abord comme t'es une grosse feignasse, t'es un procrastinateur, y a pas de problème. Le problème c'est juste que t'es un feignant, mmh. Et qui en fait montre surtout une sorte de défaut défaut de construction, de design de la génération millénaire en fait.
Après, on l'a subi, on a du mal à l'analyser, mais par exemple sur le fait de bien manger, les gens vont plus bien manger pour s'en vanter, en parler, suivre une mode, en parler sur Instagram, que pour leur bien. Et les buts sont distincts, enfin les buts sont pas sains, tu vois. Mais même si le comportement il peut être sain, en tout cas les buts le sont jamais. Donc
sur la nourriture, j'aurais plutôt pensé que justement les gens, si tu parlais de ce côté, il faut que je fasse une action et que j'ai un résultat immédiat. Je pensais plutôt que c'était les gens qui justement arrêtaient de faire la cuisine, parce que faire la cuisine c'est genre je vais faire la bouffe pendant 2 heures pour manger ensuite de mon côté plus tard, ou alors je peux juste commander chez Frishti ou chez Deliveroo.
Si tu peux le montrer, c'est quand même pas mal.
Oui, après, mais il y a le côté, je fais une tâche parce que j'ai la récompense immédiate et le résultat immédiat.
En fait, c'est pas obligé que ce soit juste l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je peux manger sain parce que je me sens mal dans mon corps et que j'ai l'impression que j'ai bouffé comme un gros sac pendant les fêtes, et j'en profite pour prendre des trucs très visuels que je vais pouvoir montrer sur Instagram. Il y a pas
soit l'un soit l'autre, quoi. C'est ça la question.
Bah, je pense que après moi je me retrouve dans certaines choses que t'as dit dans ta chronique, mais pas dans toutes. Et du coup, je trouve ça un petit peu définitif de dire que c'est un truc de génération.
Ouais.
Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui vont se dire, c'est quoi ce truc de Parisien encore. Moi, je suis salarié dans ma boîte depuis 10 piges. Quand je reçois des courriers, je les traite, je les renvoie.
C'est faux. Hein. Moi, je suis salarié dans ma boîte depuis 15 piges et quand je reçois des courriers, je les traite pas. Donc.
Mais toi, t'es même pas millénial. Qu'est-ce que tu racontes?
Et Fibre, t'as quel âge?
Bah alors, c'est un truc de.
Moi, j'ai 40. Mais Fibre, il est plus vieux que moi.
Moi, je vous m'en courrier, mais.
Ah ben voilà. Donc t'es pas millénial.
Non, mais parce que j'ai pris l'habitude, mais sur des petites tâches. Bah moi, je vais parler d'un univers qui est différent. J'ai le choix entre deux jeux vidéo qui sont d'égale qualité. Il y en a, s'il y en a un qui me donne des récompenses en permanence, bah je vais choisir celui-là. Tu vois, je vais pas. Je trouve qu'on est drivé par un système de récompense qui aujourd'hui alterne au système de décision.
Ouais. Même ton tableau Excel, par exemple.
Ouais. C'est un système de récompense.
Optimisation de ton temps. Où tu te dis genre, j'ai fini mon tableau Excel. Et en plus, tu optimises chaque truc parce que tu les notes précisément.
Et il montre son tableau Excel.
Tu le montres à la fin de l'année, ouais.
Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait parmi ces milléniaux dont je ne suis pas apparemment?
C'est entre 22 et 38 ans apparemment.
Ah ben merde. Oui, mais bon, vous savez très bien, c'est un de l'éternel débat, le milléniaux.
Oui, il faut bien mettre.
C'est plutôt un état d'esprit et une classe sociale qu'une génération. Ouais.
Mais est-ce qu'il y aurait donc des gens qui ont une aversion pour les tâches du quotidien comme ouvrir le courrier, mais qui dans le même temps clear toute leur inbox pour avoir le petit soleil?
Tout à fait.
Bonjour, c'est moi.
Mais tout à fait. Voilà.
Ok. Parce que moi, je fais au moins, je suis cohérent, c'est-à-dire que j'ouvre aucun email.
J'ai zéro email non lu dans ma boîte, dans mes boîtes pro comme perso.
Mais comment?
Par contre, ma chambre ressemble à rien.
D'accord.
Et j'ai à peu près 8 boîtes de chaussures et de sacs à dos et de t-shirts que je dois revendre.
Que tu dois renvoyer.
J'ai la flemme de faire un compte Vinted ou de renvoyer juste pour me faire rembourser.
J'aimerais tellement faire des interventions dans ta vie.
du Marie Kondoïsme?
Non. Putain, je suis vraiment malade.
Alors, j'ai une question aussi. Quand tu parles de fainéantisme, pourquoi on ne parle pas de procrastination? Puisque le système de la procrastination, c'est justement le problème du cerveau à se projeter sur une récompense lointaine et non palpable immédiatement par rapport à une récompense immédiate. Donc la procrastination, c'est de dire, bon, au lieu de me dire que je vais commencer à faire ma compta, je vais juste me lancer un petit jeu vidéo rapidement parce que la récompense est immédiate et que du coup ton cerveau veut une récompense immédiate par rapport à une récompense lointaine. Système de la procrastination.
Donc deux réponses à ça, donc bonne remarque, mais je pense que Mélissa le développera plus.
D'accord.
Le terme de fainéantise, en fait, c'est le regard aussi d'une autre génération qui n'est pas drivée et éduquée par Internet et la récompense, qui juge et dit. C'est un truc de feignant. En fait, vous êtes des bébés. Vous avez besoin qu'on vous quantifie. Vous avez besoin qu'on vous récompense. Vous n'avez pas compris l'intérêt des choses. Alors qu'en fait, en vrai, si un millennial me disait, moi, je veux pas m'inscrire sur une liste électorale parce que voter, ça sert à rien. Je trouve que son opinion, elle est respectable. Parce que il peut constater au fait qu'effectivement, son opinion n'a pas d'importance sur ce point-là en particulier.
Et en même temps, c'est ces mêmes millennials qui vont aller à Occupy Wall Street ou à Nuit Debout parce qu'ils ont l'impression d'avoir un impact qui est plus réel.
Donc là-dessus, Sylvain, tu rejoins plus Fibre, en fait.
En fait, c'était une question pour voir si c'était ça.
Vu que c'est ça, est-ce que du coup, ça te parle plus, ce côté, effectivement, où il y a une sorte de décorrélation entre des tâches, comme tu dis, des tâches plus flamboyantes, en fait, pour lesquelles on a une énergie folle et une discipline folle et une volonté folle, et des tâches qui sont aussi très utiles et très importantes, mais qui ne sont pas du tout spectaculaires ou qui sont décorrélées d'immédiateté, pour lesquelles on a littéralement aucune volonté. Là-dessus, Sylvain, c'est un peu de ça dont on parle.
Je comprends ce que ça peut être, mais je ne me retrouve pas dedans parce que j'ai un problème de packing dans ma vie.
Un problème de quoi?
De packing.
Le ranger packing.
J'aime ranger les choses. J'adore Marie Kondo, hein, mais elle n'invente rien. Ma devise, c'est...
C'est vrai que c'est Sylvain qui a appris à rouler les choses.
Chaque chose a une place et une place pour chaque chose. Et du coup, faire mon courrier administratif, j'adore ça.
Non, mais il y a pas
parce que
courrier administratif.
Parce que je mets des papiers dans des enveloppes que je vais fermer. Elles vont être bien gonflées, hyper cool au toucher. Je vais coller un timbre, je vais faire un tas. Et j'adore ça.
Ah non, mais là, c'est un kink, c'est autre chose.
Voilà.
c'est un tabou pervers.
Le mec se masturbe sur des piles de lettres.
Du coup, tout est comme ça dans ma life, moi. Ranger
ma
chambre,
faire ma lessive,
faire ménage.
Est-ce que t'es allé chez le médecin récemment?
Non, depuis que je suis freelance, je suis plus malade. Parce que je fais des grasses matinées quand je.
Non, mais t'as pas besoin d'être malade pour aller faire des check-ups. Faire des
Est-ce que tu vas une fois par an chez le dentiste?
C'est quoi le truc que t'arrives pas à faire?
Spoil pas ta chronique, Emile.
Vider le lave-vaisselle ou des choses comme ça?
Non, tout marche.
Moi, j'adore le bruit d'un lave-vaisselle vide. Tu vois, donc ça, je le fais. Non, parce que j'ai l'impression qu'il faut.
Faut mettre de la passion, du coup, dans la
Faut avoir un petit côté ASMR sur n'importe quoi, tu vois. Ah, mais le bruit,
c'est un côté un peu flamboyant, un côté un peu ludique ou un côté un peu récompensant. C'est-à-dire que, effectivement, si tu arrives un moment à créer ta récompense, peut-être que tu aimeras charger ton lave-vaisselle.
Donc, c'est-à-dire que par défaut,
il faut trouver le côté
récompense. Ce sont des tâches héritées de l'ancien monde, du monde pré-internet.
Qui n'ont pas.
On part du principe qu'il n'y a aucune valeur ajoutée sur ces trucs-là. sauf si on arrive en fait à les twister pour les rendre attractifs par le biais de...
Non mais par exemple, sur la question des vacances, elle est très intéressante. Avant, on travaillait, et la récompense de ce travail laborieux, c'était de prendre des vacances. Est-ce qu'aujourd'hui, ce système, il a un sens ? Parce qu'aujourd'hui, déjà, aller en vacances pour certaines personnes, bah, c'est un travail, parce qu'ils vont faire des Instagram toute la journée. Et peut-être que leur boulot est peut-être plus sympa que d'aller en vacances. Moi, si demain, tu me dis que tu as gagné un voyage à Bali, je vais culpabiliser Surfrider pour l'empreinte carbone, je vais me retrouver qu'avec des Parisiens et je vais faire des Instagram.
Ah, donc maintenant, tu trashes les Parisiens maintenant.
Non, mais si j'allais en Islande, tiens, je verrais que des mecs du 11e.
Et du 91, parce voilà, que PNL a tourné un
voilà,
clip.
Et des Américains. Et en plus, ça se trouve, je kifferais moins Bali, l'Islande, que d'aller faire un Game of Thrones le mercredi soir avec vous. Et parce qu'on a des métiers aussi qui nous récompensent de certaines façons. Et je veux dire, parler de congés payés dans plein débat gilets jaunes, macronistes, tout ça, est-ce que ça fait pas partie de la transformation du monde qu'on est en train de vivre? C'est pour ça que
cette transformation
est démentielle.
Mais c'est quoi cette transformation, par exemple? C'est quoi
là,
ta solution?
Le gilet jaune, j'ai moins compris fibre.
Aujourd'hui, les repères de vie, de qualité de vie, que sont les vacances, par exemple, mm-hmm. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui est né en 2000, il espère aller en vacances? Est-ce que quelqu'un qui est né en 2000, qui est méga woke, justement, parlons-en, Surfrider, empreinte carbone, il rêve d'aller aux Caraïbes comme quelqu'un qui était né en 1980?
Ça dépend de ta catégorie socio-professionnelle. Je pense que ce que tu dis, ça marche bien pour quelqu'un qui est né en 2000 et qui vide sa plume, par exemple. Ce sera peut-être un peu plus difficile pour quelqu'un qui est né en 2000 et qui bosse à l'usine, tu vois.
Ouais.
En fait.
Tout à fait.
Rends-toi compte de ta position dans le monde.
Moi, par exemple, alors, autre exemple.
C'est le wokisme.
Tu veux dire check tes privilèges?
Non, mais attends. Le ski.
Oui, le ski.
Pour moi, le ski, comme la chasse, comme les bars tabac, c'est des choses qui vont disparaître.
Le ski, la chasse, les bars tabac.
Il y a un grand écart de dingue.
Mais qui va au ski? Enfin, c'est les vacances débiles, le ski.
Il y va au Japon.
Tout le monde va au ski.
Non,
c'est vrai que tout le monde va pas au ski.
Il y a qu'un seul personne dans cette pièce qui va au ski.
Par contre, le rapport entre le ski et le bar tabac, c'est un truc.
Parce que le tabac, ça va disparaître aussi.
Ah! Oh!
Dis donc.
D'accord.
Prédiction.
Prédiction. Prédiction 2019. Le tabac.
J'ai pas compris du coup le rapport avec le reste.
Non, mais
en gros, c'est que tous les standards des années 80, enfin de nos parents, quoi.
Oui. En fait, c'est ça, c'est un rejet.
On est complètement bouleversé. On n'est plus du tout dans la même notion de plaisir que nos parents. C'est plus genre, on va au ski. C'est ah, trop bien, on va au ski au Japon. Je traverse le Japon, je fais ci, ça. Et ça va être ouf.
Également. Sylvain fait oui, oui.
Oui. Non, mais moi, je trouve que dans ce truc-là, il y a énormément d'observations qui sont justes, mais c'est des observations. Il n'y a pas forcément fibre, comme tu essayes de le raconter, un grand schéma cosmique des choses, tu vois, et une ère qui remplace une autre. Je pense pas que ce soit aussi global que ça.
Je trouve que... Attends, juste une chose, oui, elle va en parler. Mais revenons sur les vacances. C'était impensable, dans les années 80, de dire « Les vacances, on s'en fout un peu. » Enfin, sauf à moins que tu sois un patron dictateur. Aujourd'hui, il faut envisager que quelqu'un... Les vacances n'est pas une récompense. C'est pas la récompense
qui vide sa plume, quelqu'un qui est freelance.
Mais non, pas ça, non. Évidemment, si tu fais un travail à l'ancienne, tu auras besoin de vacances à l'ancienne.
Dans un bureau du lundi au vendredi,
c'est faire 8-18 dans un bureau?
Du lundi au vendredi, comme à peu près 90% des gens qui sont actifs en France.
Ouais,
en fait.
Mais ça va changer.
Je sais plus sur quoi ça se...
Et puis, même si ça touche que 20%, s'il faut en parler.
Non, mais je sais plus sur quoi ça se base, mais il y avait pas un article qui est sorti il y a pas longtemps qui disait que les jeunes, en fait, maintenant, ils sortent plus, ils restent chez eux parce qu'ils préfèrent parler sur Internet.
C'est un article américain, quand même.
Ouais, mais c'est attention
aux projections grosses de la société américaine sur l'Europe.
Oui, mais là, ce qui est décrit, c'est quand même un truc assez global. C'est ce truc de, on n'a pas les mêmes objectifs de vie, quoi. Nous, nos parents avaient envie de sortir pour se retrouver, pour pouvoir parler. Maintenant qu'on a des outils qui nous permettent de parler, on s'en fout de sortir et d'aller au cinéma tous les samedis après-midi.
Ça, je crois que c'était une tendance qui était plus globale qu'une tendance juste sur les États-Unis, Daz. Là-dessus, sur ce que Mélissa, tu cites, c'était le côté, effectivement. Et justement, la génération qui parlait de cette, la génération d'avant qui parlait de cette étude disait comme c'est triste.
Ces ados qui restent dans leur chambre
qui sortent moins. Alors qu'en fait, les ados disent, non, en fait, je suis avec mes potes plus que jamais. En fait, on passe nos soirs à déconner et à s'envoyer des photos, à faire les blaireaux, sauf qu'on n'a plus à faire le mur pour le faire, en fait.
Le monde change.
Ah, c'est beau.
Merci. Non, mais ouais.
On a vieilli.
J'attendrai l'étude qui confirmera tout ça.
Mais alors, donc,
éternel sceptique, désolé.
Donc, du coup, cette notion-là de ne pas vouloir faire ses tâches du quotidien, que nos parents appellent la paresse, la fainéantise, la procrastination, ce que vous voulez, on l'appelle comment alors? C'est quoi le vrai terme?
Moi, je dis le fear of missing an opportunity, le FOMOA. Ouais, mais le si FOMOA. Vous avez une meilleure idée. Enfin,
le FOMAO. C'est plus brésilien, d'ailleurs.
FOMAO.
Non.
On devrait appeler ça le FOMEO pour faire ça à la française, tu vois.
FOMEO.
On va trouver un acronyme.
Excellent.
En fait, là, c'est déjà en train de turbiner.
L'article BuzzFeed, ce qui est bien, c'est qu'il a, comme Marie Kondo, il a éclairé d'une étincelle de joie, on va dire, notre quotidien. Il a apporté une petite étincelle d'intelligence. Et moi, je vous invite, si vous avez des réflexions à ce sujet, effectivement, à en parler. Et peut-être, on va dégager un lexique par rapport à ça, des idées. Peut-être faire la fameuse étude dont Sylvain rêve pour
vérifier
pour croire enfin aux extraterrestres. Et éventuellement, trouver un moyen de s'en sortir.
C'est l'article qui a le mieux marché de BuzzFeed cette semaine-là. Donc,
il faut le lire.
Peut-être que ça l'a parlé à des gens.
The Burnout Generation. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enchaîne directement avec ta chronique, Mélissa? Parce que j'ai l'impression qu'on a envie d'en savoir plus.
Ou est-ce qu'on colle une FAQ?
Oui, non, mais évidemment qu'il y aurait une FAQ.
Petite FAQ pour respirer, et puis Mélissa fait le...
Et puis
parce que Mélissa...
Elle est le clou.
Mélissa aurait la solution, c'est ça?
C'est le clou dans le cercueil, Mélissa.
Pas complètement.
Ou le cercueil sur le clou.
Ah ben si, on va en savoir, on va savoir.
Bon, très bien. Allez, on fait des petites FAQ, et juste après, on continuera sur ces gros articles de la Burnout Generation. Nos auditeurs sont formidables. On a eu des très très bonnes questions encore ce mois-ci. J'ai dû en garder que 3 sur les dizaines de questions qu'on a eues. Et je vais commencer à aller par laquelle. Ah, c'est le nouvel an. Julien Loisy nous demande quelles sont vos prédictions pour le podcast game 2019.
Ah, il a frappé à la bonne porte, hein, parce que s'il y a bien des gens qui piffent leurs prédictions et qui comprennent rien à rien, c'est bien nous quand même. À part une personne assise à cette table.
Année de la bienveillance, c'est même.
Mais ce sera la plus pertinente.
Je pense.
J'en ai une petite.
Vas-y.
J'ai été surpris de voir le podcast perso, point d'interrogation, je ne sais pas celui, de David Tennant, c'est ça en anglais.
David Tennant qui
c'est un acteur
de Doctor Who. Et donc un acteur célébrité qui fait son podcast en mode j'invite mes potes, à part que ses potes, c'est des super acteurs, tu vois. Et comme le podcast devient cool, comme l'était le yoga et les bubble tea, et ben je pense que les célébrités maintenant vont faire leur podcast à la cool.
Bien, genre les blogs
et ce sera plus Radio Kawa qualité et compagnie, ce sera David Tennant et demain je sais pas
je peux dire que le bubble tea c'est aller au ski des années 2000 hein. J'annonce.
Moi j'annonce 2019 l'année du podcast de célébrités mais intime entre célébrités.
Et ben je peux vous conseiller que le podcast de Joe Rogan qui existe depuis un petit bout de temps mais qui en ce moment fait beaucoup de bruit puisqu'il avait invité Elon Musk
Joe ou Seth.
Non, Joe Rogan, c'est Rogan, notamment le commentateur de l'UFC, un des commentateurs de l'UFC, et qui reçoit que des célébrités, et c'est un tête-à-tête à la coolos. C'est lui avec lui que Elon Musk a fumé son petit pétard à la cool, et que Mike Tyson a fait des très très belles révélations.
Donc c'est-à-dire que pour toi, ça serait l'ère du podcast perso célébrité, sans aucune attache infrastructure.
En gros, c'est le moment où les mecs d'Hollywood vont dire
oui,
« Ah, t'es pas
que
c'est le plug ».
Le plug, c'est quoi?
C'est comme le blog ou le vlog, mais en podcast, c'est le vlog.
Ah, c'est en people.
Non, mais après tout, ces gens-là, ils ont des Twitter. Pourquoi ils n'auraient pas de podcast?
Non, mais c'est vrai que si c'est des podcasts comme dit Fibre, en dehors des circuits de promo, ils ne sont pas genre, ah bah tiens, quel hasard, on reçoit machin qui a parlé d'Aquaman, mais plus des potes qui discutent, ça peut être très chouette.
Et je ne peux que me réjouir d'écrabouiller cette interface que sont les journalistes, ces parasites, tout ça, les agents de presse, tout ça, etc., qui sont leurs petites analyses dont on s'en branle, tu vois, ça va être c'est très intéressant d'avoir le truc en direct. J'adore ta profession, Mélissa. Je te taquine.
Si vous dites que t'as déjà traché les mecs du 11e une fois, tu vas pas le faire deux fois, quand même. Bon.
Oh là là! Très bon. Effectivement, ça participe au, il y a de moins en moins d'intermédiaires, qu'on voit dans tous les secteurs.
Très bien. Je sais qu'en Fibre, en fait, il fait pas de reco podcast, il continue à faire la promotion de ses plans et sa vision du monde.
Le grand schéma cosmique de Fibre.
Alors, qui a une prédiction pour le podcast Game 2019? Si j'arrive plus à dire podcast, je suis mal barré.
Il va y avoir de l'argent dans le podcast en 2019.
Ouais.
Ça a déjà commencé en 2018, ça va se professionnaliser, les marques sont de plus en plus intéressées.
Ouais, la bulle explose quand alors? En 2020?
2020, ouais.
Ah, 2020, retour au chômage.
Prédiction qui explose en 2020.
Ok.
Qui, vraie prédiction, qui est dans la bulle?
Ceux qui gagnent de l'argent.
Justement, il va y avoir des gros acteurs qui vont se démarquer, qui ne vont pas exploser avec la bulle, qui vont être des Binge, qui vont être des Magellan. Ça va être un gros truc, Magellan. Hein.
Magellan, ça va être un gros truc.
Ils ont 4 millions, donc déjà ils sont gros de base.
Ça va être un gros truc. Ça va être un. C'est un peu nos GAFA à nous, quoi. C'est des gens qui sont trop loin de nous. Nous, on continue de faire de l'artisanat.
Ouais.
On est un petit peu le Viadeo, en fait, finalement. Podcast
Game. Le copain d'avant,
le copain d'avant. Mais c'est bien parce que nous, on restera toujours, toujours droit dans nos bottes et le regard à l'horizon, quoi.
On en reparle en 2021 quand on fait une Reality Fanta avec, avec des youtubeurs et des podcasters. Mélissa Daz, est-ce que vous avez une prédiction pour 2019?
Daz, y aller. Parce que...
Ouais, non, moi, j'en ai absolument aucune parce que j'y comprends que dalle au business, tu me connais.
On rappelle que Daz s'en branle des podcasts.
Est-ce que ta prédiction, ça pourrait être sortie de Californie, ce serait une belle prédiction?
Bah oui, non, mais ça, ça va pas retourner le podcast game. Non, non, plus j'essaie de comprendre ce monde, ce milieu, et plus je me rends compte que j'y comprends que dalle. Donc, moi, je continue à faire les trucs que j'aime bien. C'est comme ça qu'on fait depuis 2012 et ça marche.
Voilà. Donc, voilà. À l'ancienne.
Bah ouais. Moi, franchement, ça me perturberait d'avoir une obligation de résultat ou en tout cas de devoir faire du chiffre par rapport à ce truc-là, tellement pour moi, c'est intangible en fait. Donc ouais. Là, effectivement, il y a de la thune. Demain, il n'y en a plus. Bah,
oui, on continuera.
Bon courage, Mélissa, vas-y.
On a fait avec, on a fait sans.
Oui, voilà.
Mais c'est bizarre parce que, en fait.
Alors, Mélissa.
Quand même.
Toi, t'es au cœur du podcast.
Quand même, parce que
lui, c'est créé en un an. Vous produisez énormément, ça marche bien.
Bah ouais, déjà, alors, je peux dire un vrai fait, mais qu'on est sur les faits. Tous les clients de Louis Média sont arrivés à Louis Média. On n'est pas allé les chercher.
Ah, c'est fou, ça.
Ça, c'est quand même un bon signe.
C'est plutôt bon signe.
Dans un marché.
Ouais.
On est d'accord.
Clairement, clairement.
Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un truc autour de la voix? C'est-à-dire qu'on écoute de plus en plus de trucs, de la musique, des podcasts, on parle beaucoup. On écoute beaucoup nos smart speakers.
Écoute, je traîne beaucoup sur YouTube et
il y a deux acteurs majeurs qui arrivent pour structurer le marché du podcast payant.
En fait, je vais te dire un
truc.
Je vais te dire un truc, c'est simple.
La radio publique dit nous aussi on fait des podcasts.
Regarde, c'est super simple.
Toutes les radios font des studios de podcast.
On fait du podcasting chez 404 depuis, ça c'est la 7e saison là.
En 2012.
Des checks de gens dans la rue par rapport à ce qu'on fait sur 404, j'ai dû en avoir une dizaine. Je fais le mongolien sur YouTube une fois par semaine depuis 2 ans. Je me fais capter par les jardiniers municipaux de Courbevoie, des mecs dans le RER, des gars dans le métro, des gars au resto, des gars partout qui me disent qu'ils m'ont vu sur YouTube. Donc en fait,
le même public, c'est ça le truc. En fait, le podcast, pour l'instant, c'est pas mainstream, mais c'est une audience de niche hyper engagée. Ouais. Et c'est surtout, précisément l'audience que les marques veulent.
Est-ce que ce sera mainstream à un moment? Moi, je crois pas.
Tout dépend en fait de
c'est
la.
Comme
techno.
La VR, je pense.
Non, mais c'est la techno. Le vrai podcast.
J'ai fait des bonnes prédictions moi sur la VR.
Le vrai problème du podcast, c'est l'expérience utilisateur.
Oui.
Enfin, c'est l'horreur.
Mais
toutes les apps de podcast, elles marchent pas. Donc même Apple Podcast, qui est quand même celle qui est la plus utilisée. Oui, mais Spotify, ils ont enterré les podcasts au fin fond de je sais pas où.
C'est vrai qu'aujourd'hui, pour chercher les podcasts et s'abonner ou gérer ses téléchargements, c'est pas génial.
Je pense qu'ils ont ouvert il y a 6 mois à tous les gens qui veulent faire du podcast la possibilité de les publier sur Spotify. Donc ça, c'est à la fois un bon signe, mais vraiment l'expérience utilisateur, il n'y a aucune app. Genre Google Podcast, ça existe depuis moins d'un an, c'est un enfer. Donc tant que ça ne sera pas réglé, déjà, on n'y arrivera pas.
Facebook arrive.
Alors, l'appli Apple Podcast, ta prédiction, c'est qu'il y aura enfin une expérience utilisateur.
S'il vous plaît, faites-le. On a eu des previews de Magellan et Cybelle, qui est notre appli payant.
Mais vas-y, mais leak les informations.
C'est joli pour l'instant, mais après, j'ai testé que 2-3 expériences, donc j'ai pas vraiment eu l'app en bêta encore.
L'application Apple Podcast, vous aimez pas, vous?
Non.
Le truc où il y a genre un catalogue.
Il y a des trucs tout cons, genre quand tu joues t'as fini un épisode, il te joue celui d'avant.
Ouais, c'est complètement débile.
Rien que ça, tu vois. Genre,
mais non, mais ça dépend, ça dépend comment tu l'as enregistré dans l'appli, parce que c'est à toi de dire si c'est en ordre hanté ou.
Ouais, mais tu vois,
il y a plein de gens qui vont jamais faire ça.
Bah ouais. Ça devrait pas être une question.
L'autre jour, j'ai pris l'appli podcast de ma mère sur Android, ou je sais pas ce que c'est, mais. Et genre, elle pouvait pas penser à rafraîchir son flux. Du coup, elle disait « Ah, mais j'ai pas le dernier, il est pas arrivé. » Juste, elle avait pas rafraîchi. Les mecs, ils n'ont pas pensé que les gens...
En vrai, le problème, c'est un problème du flux RSS, quoi. Et il faudrait repenser,
le flux RSS, il est toujours... Quand tu lances ton podcast préféré, il doit faire un refresh tant que t'as à le faire.
Non, mais il y a plein d'options. Et en fait, c'est vrai que si tu mets pas ton podcast en saisonnal, du coup, il va pas jouer les épisodes dans...
Moi, personnellement, j'ai Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify et SoundCloud. Et il y en a... J'ai aucune application qui aujourd'hui me fait dire ok, j'ai trouvé le truc parfait, c'est simple. Enfin, quand je m'abonne à un podcast mais que je télécharge que quelques épisodes, je sais jamais où sont les épisodes téléchargés ou pas téléchargés offline.
Celui qui avait des podcasts sur Amazon.
Ouais, c'est un bordel. Bon, moi je suis Mélissa. 2019, ce sera l'année où on aura enfin une expérience utilisateur moderne, peut-être. On suit là-dessus.
Merci.
Allez, sans plus tarder, du coup, Mélissa garde la parole puisqu'on va continuer sur cette burnout generation. Mais Mélissa s'est attaquée à un autre versant du problème.
Sujet numéro 2.
À force de rechercher du sens à sa vie, la burn-out génération tourne en rond.
Bonjour.
Oh, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça dépend quelle heure il est chez vous. Je m'appelle Mélissa et je suis en burn-out. Comme Fibre, qui ne l'admet pas vraiment. Alors, j'ai découvert ça il y a 15 jours, alors que je errais sur ma timeline un soir, ça m'arrive souvent. J'ai cliqué sur un lien dans le métro qui me ramenait jusque chez moi, je devais trouver un sujet de chronique pour 404. L'article fait des milliers et des milliers de signes, mais lisez-le. Je n'avais jamais lu un article si long d'une traite. À chaque paragraphe, je me disais « mais c'est ma vie, mais c'est ma vie !» Je copiais-collais des passages entiers que j'envoyais par texto à mon mec. J'ai compris que jusque-là, je vous disais souvent que j'étais fatiguée avec un grand sourire parce que je fais plein de choses passionnantes dans ma vie, comme participer à Studio 404 et enregistrer des épisodes le dimanche soir dans mon salon. Mais j'étais en burn-out de millénial. Alors rappelons bien que être millénial, donc c'est bien 22-38 ans aujourd'hui.
Oui, et laisse-nous rentrer dans le club aussi. Hein. Laisse les vieux rentrer dans le club.
Je suis en burn-out parce que je crois que vivre, c'est toujours faire des trucs ou donner l'impression que je fais plein de trucs pour donner du sens à ma vie.
D'accord.
Parce que le capitalisme qui nous pousse à consommer m'amène à penser que c'est bien de partir en voyage partout, d'avoir un métier inspirant, d'avoir une hygiène de vie parfaite, de m'éclater dans tout ce que je fais et surtout de bien le montrer, car je vois que tous les autres ont l'air d'avoir des vies trop cool. Donc je m'escrime à réussir parce que tout le monde aime la réussite et le sens. Être en burn-out, je croyais que c'était plus pouvoir se lever le matin pour aller bosser.
Mm-hmm.
Mais pour notre génération, c'est aussi s'épuiser tout en disant « énergie !» J'en parlais Fibre. Si vous écoutez ce podcast depuis quelques mois, voire quelques années, vous ressentez peut-être le même épuisement que Fibre et moi. Je vais vous aider à faire le diagnostic. Ne vous inquiétez pas, venez, ça va bien se passer. Il suffit de répondre à quelques questions.
Ah, ben on va le faire, rapidement.
Avez-vous ouvert Instagram dans les 45 dernières minutes ?
Oui.
Non.
Je vois des mains qui se lèvent derrière.
Non, parce qu'on enregistre l'émission d'Az.
Voilà.
Bon, on va vite. Ok, tout le monde a dit oui ? Tout le monde a dit oui.
Vous retrouvez-vous parfois sur Facebook ou n'importe quel réseau social alors que vous cuisinez, que vous cherchez votre prochain Airbnb pour vos vacances et que vous finissez de répondre à un mail de bureau ?
Oui.
Non.
Non, mais ça peut être des trucs, tu vois, multitasking.
Ok, oui.
Quand êtes-vous allé chez le médecin pour la dernière fois ?
Non.
Oui. Pareil, non.
Est-ce que vous avez du mal à faire des petites tâches administratives ?
Oui.
Ça dépend s'il y a des enveloppes.
Je veux pas savoir comment tu cachetonnes tes enveloppes.
Oh, coquin.
Est-ce que ça vous rassure, voire vous en rendez pas compte, de travailler le week-end ?
Oui.
Oui, pas du tout.
Songez-vous à changer de carrière parce que vous ne trouvez pas assez de sens dans votre métier actuel ?
Déjà fait.
Sûrement, ouais.
J'y ai déjà pensé.
Est-ce que vous partagez parfois le fait que vous vous voyez comme une loseuse ou un loser pour qu'on vous rassure sur le fait que ce n'est pas le cas ?
Non.
Pas trop.
Non. Attention whore.
Un peu.
Vos parents vous ont-ils dit « fais ce que tu veux de ta vie, mais vas-y à fond ».
Non.
Non, bah, non. Mes parents sont asiatiques, donc ça c'est, ça c'est un truc qui transcende les générations. Ça, c'est, tu seras médecin.
Est-ce que si vous disparaissez pardon, des réseaux sociaux, vous avez l'impression que vous allez disparaître pour de vrai ?
Oui.
Oui.
Pensez-vous régulièrement à la ligne éditoriale, l'identité graphique de vos comptes sur les réseaux sociaux ?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous aimeriez parfois secrètement être un influenceur ou une influenceuse ?
Oui. Des fois, oui.
Mais si nous le sommes déjà,
ça
on
dépend
doit répondre
quoi. Ça dépend à quel moment on place l'enculade, quand même.
Toi, au dernier 404, tu nous as bien fait les petits comptes, les gros comptes. Hein, donc,
oui,
influenceur.
Mais je suis dans les petits, mon petit bonhomme.
Est-ce que.
Mais bon, c'est oui, Mélissa.
Depuis que vous voyez beaucoup de gens autour de vous parler de la méthode de rangement de la japonaise Marie Kondo, vous ressentez une forme de pression parce que votre appart n'est pas vraiment rangé ?
Moi, j'ai cette pression depuis que je connais Sylvain à Palais.
Non, car je fais le ranger packing.
Mon appart est toujours nickel, personnellement.
Alors, nous sommes sur un bilan positif. Hein,
ah oui, là, on a plus de 90% de réponses positives.
Donc, les amis, je crois qu'on est tous là. En gros, nous voulons tous tellement nous épanouir que nous nous épuisons à essayer et à essayer de le montrer.
Ah là là.
Alors que. Et c'est là que le contexte arrive, Sylvain. C'est la merde. L'économie est beaucoup moins florissante que quand nos parents avaient notre âge. On travaille tout le temps grâce à nos outils miraculeux, Internet. On se dit que plus on bosse et plus on va réussir, alors que c'est pas du tout sûr qu'on puisse réussir ni avoir une retraite. En gros, on vit dans une précarité économique et même physique parce qu'on s'épuise, tout en essayant de se prouver que la vie est rose. Rose millénial, souvenons-nous.
Quel coloris.
Nos vies ressemblent à des to-do listes interminables et ce qui ressort, c'est qu'on a tellement été élevés avec genre, les nouvelles peurs de nos parents,
de crise, enfin on est quand même vécu avec genre la crise de la vache folle, les crises sanitaires, les crises alimentaires, mm-hmm. qu'on est beaucoup moins YOLO qu'eux. En fait, dans l'article, elle dit, mais en fait, on se rend pas compte, mais on prend aussi beaucoup moins de risques que nos parents.
D'accord.
Et donc, ça fait un truc de ouf où on essaye de réussir tout en s'épuisant et en se disant, on va y arriver. Mais comment on fait pour s'en foutre?
Et c'est vrai.
Ne plus être épuisé, ne plus être en burn-out. Là encore, le cabinet Studio 404 Consulting est là pour répondre à vos demandes.
Ah, 404 et haut.
Alors attention, il ne s'agit pas du tout d'une méthode à la Marie Kondo. C'est vraiment pas ça qu'on veut faire, c'est le contraire. Quelques possibilités. Je pense que vous en aurez aussi peut-être. Dites-vous, vous allez adorer celle-là. Dites-vous que votre vie est chouette.
Ah.
Est-ce que vous n'êtes pas vivant déjà?
Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment.
Fibril en thérapie, là.
J'ai l'impression que c'est la solution de dernier recours, de dire j'aime ma vie.
C'est vrai, on n'est pas au Yémen. Allez,
non,
c'est parti, c'est un peu.
J'ai dit chouette, hein, j'ai pas dit genre vous adorez votre vie. Est-ce que genre vous pourriez regarder par la fenêtre pendant 5 minutes?
J'essaie, mais des fois j'ai du mal.
Alors, moi, essayez peut-être. Je veux pas donner une méthode. Hein. Juste, je me suis dit, qu'est-ce que je faudrait juste pour reposer mon cerveau et me dire, genre, c'est pas grave, tu vois.
Vous le faites pas?
Moi, je le fais, moi, mais bon.
5 minutes.
Bah ouais, je regarde le poulet et j'essaie de voir si la viande, si la broche est bien.
D'où vient la viande? Ouais. J'essaie de capter quand ils amènent la viande et tout, ouais, savoir comment ils la déballent.
Est-ce que c'est mon kebabiste?
Non, mais vous avez déjà regardé à la fenêtre juste pour regarder à la fenêtre? Moi, ça m'arrive jamais.
Tu te perds jamais dans tes pensées comme ça en regardant dans le vide?
Ah si, moi je kiffe quand justement là en ce moment la pluie tombe sur les fenêtres.
Oui.
Et ben moi j'adore. Je peux
regarder. Mais est-ce que tu regardes vraiment? Est-ce que tu fais comme Joey dans cet épisode de Friends où il regarde?
Arrêtez de me citer des séries où il y a que des blancs new-yorkais qui me représentent absolument pas, là, s'il vous plaît. Quoi.
Je triche un peu.
Dis le mec qui regarde du Tom Clancy à longueur de journée.
Il y a des noirs dans Tom Clancy.
Il meurt.
Gris et noir.
Je triche un peu. J'ai une magnifique rivière avec des canards et des hérons.
Ah.
On a fibre, heureusement.
Il faut habiter.
Est-ce
la campagne,
que parfois en fait. Vous marchez dans la rue sans but?
Non, quand même, là, non.
Non.
J'ai déjà tenté. J'ai déjà tenté.
Paris.
Là, chacal, c'est compliqué.
Je pose des questions
si
qui peuvent être des conseils, mais vous
non, mais
ce que
c'est
vous
parce que quand elle dit ça, ça paraît simple à dire, genre marcher dans la rue pour marcher dans la rue. Et en fait, on se rend compte, oh là, non.
On n'a pas le temps de le faire.
Non, attends, marcher dans la rue.
Pourquoi t'as pas le temps? Tu veux optimiser?
Non, parce que c'est chiant. Non, marcher dans la rue, je le fais jamais. Prendre un skate électrique juste pour aller faire une balade.
Ouais, ouais, non, parce que là, t'as un but de kiffer.
Mais est-ce que genre t'es avec ta fille kiffer, tu vois, est-ce que tu fais genre une promenade avec ta fille? Est-ce que tu le fais genre juste comme ça, tout seul?
Ouais, mais attends, Mélissa, marcher dans la rue dans Paris, c'est chaud quand même. Hein.
Ah, c'est dangereux.
J'ai pas dit dans une rue de Paris.
Cracher dessus,
ah, oui.
Marcher.
Même c'est bien parce que Fibre, en fait,
il confirme
le point de Mélissa et de l'article qui est qu'on est une génération beaucoup moins YOLO que les autres. Pour dire, oh là là, marcher dans Paris.
Bon. Si, on est une réaction YOLO. You live only once. C'est-à-dire, t'as qu'une vie. Tu vas pas aller dans Paris. Genre, tu vas te prendre un couteau et voilà.
Non, mais c'est YOLO optimisation.
Non, mais c'est quoi? Mais est-ce que nos parents aussi marchaient sans but dans la rue? Enfin, c'est ça que je comprends pas.
Ils allaient pécho de la drogue.
Et moi, je me rappelle d'un truc. Juste quand j'étais jeune et qu'il y avait pas, j'avais pas de smartphone dans le RER, je me rappelais, il y a des fois où je me dis, mais je faisais rien pendant 45 minutes.
Comme ouais. Ça, c'est vrai.
Ça ne
ça,
m'arrive vrai, plus. Ouais.
Je me rappelle que dans l'erreur, moi je les ai beaucoup, mais je voyais des gens qui regardaient la fenêtre du RER
mais
pendant 45 minutes sans rien faire.
Mais non, vous croyez qu'ils font rien? En fait, les mecs ils sont en train de noter tous les graphes et tous les tags pour savoir qui a posé à la semaine d'avant. Moi, c'est ce que je faisais quand j'allais à la fac, en tout cas.
Ensuite, quelques autres choses auxquelles j'ai pensé. Si vous avez un job que les Instagrammos qui font des tours du monde en van qualifient de chiant, mais que ça vous plaît, faites ce que vous voulez.
C'est vrai.
Prenez vos distances avec vos 14 to-do list de la vie. Suivez vos envies quand elles arrivent. Et si vous ne réalisez pas tout, emoji, c'est pas grave. J'arrive pas à dessiner un emoji, vous le voyez pas de façon.
Ouais, le shrug.
Mais surtout, notre solution préférée chez Studio 404 Consulting, venez au camp. Vous ressourcez du 1er au 5 mai sans forcément
comment
ressentir le besoin de parler.
On va fusionner un jour.
Non mais attendez, venez au camp, mais dites pas genre oh, « Trop bien, je vais au camp me déconnecter, trop bien, je vais me connecter. »
Non, mais déjà trop bien, je vais au camp, il y aura Mélissa, déjà rien que ça, c'est... Mais moi, j'y crois toujours pas, là, tu vois.
Non mais du coup, moi, je vais auto-appliquer le truc, je vais y aller.
Ah.
Vous avez l'enregistrement. Vous pouvez me le rejouer.
Excellent.
Je n'y croirai pas tant que je ne serai pas à côté de toi sur une toilette sèche, non lavée, déconnectée, ne sachant pas s'il fait ce matin ou le soir.
Avec des mecs qui sortent des sanitaires les mains sales et qui vont, ouais, on coupe les légumes. Je me demande comment on n'a jamais eu de crise sanitaire.
Attends,
encore au campagne.
Si dans cette émission Daz dit qu'il fait California, alors là, ça va être l'éclipse de trois astres.
Cette année, je livre.
Oh là là.
Et si je viens, est-ce que plein de meufs peuvent venir aussi.
Mais bien sûr.
Et plein de
mais
mecs aussi. Hein,
mais bien sûr,
pas.
Bien sûr. Ramener plus de meufs même.
Mais bon, tout ça pour dire que finalement, le camp c'est bien. Mais c'est là qu'avec Fibre, on a souligné à quel point ce sujet, cet article est fondamental. On ne résout pas notre burn-out avec des vacances. Le mec qui bosse dans la finance et n'y voit aucun sens, bah, il n'aura pas envie d'y retourner après 4 jours au camp, même si le camp est vraiment merveilleux. Dans mon cas, c'est parce qu'en fait, j'ai toujours été bonne élève. Donc, de la même manière que je voulais rédiger des super dissertes pour apprendre et avoir des bonnes notes, je fais tout ce que la société attend de moi ou ce que je crois qu'elle attend de moi, la réussite, et je me laisse rarement aller ou alors, si je le fais, ou putain, je culpabilise. Donc, il faudrait qu'on puisse se détendre complètement et arrêter de constamment remplir, enrichir nos vies, de vouloir accomplir des objectifs comme si on allait mourir si on les atteint pas. Ça demande pas mal de force, pas mal de temps. Ça implique qu'on défasse du « qu'en penseront les autres ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais plus exister ». À la fin de l'article, la journaliste, elle a pas de méthode non plus. Elle lance plutôt « on pourrait déjà arrêter de penser que tout ce qu'on aime est mauvais » ou enfin tout ce qu'on aime et qui n'est pas genre exactement comme ce qu'on voit qui a l'air cool. Et elle essaie de se convaincre qu'elle peut arrêter de tout vouloir optimiser, remplir, rendre public et juste vivre.
Bon.
Je dis ça, mais je suis là avec vous un dimanche soir à enregistrer ce podcast au lieu de regarder par la fenêtre. La première étape, comme tu le disais, Fibre, c'est déjà de se rendre compte.
Bravo. Bravo, Mélissa. Très belle fin. C'est vrai qu'on est un putain de dimanche soir. Et qu'au lieu de glander devant Ciné Dimanche comme des gens normaux comme nos parents, on fait un truc cool, on fait un podcast et on fait des stories de notre podcast sur Instagram qu'on poste pour dire hey, « Eh, regardez, c'est trop cool, les dimanches, on bosse. »
Oui, enfin, si oui, mais tu vois, moi, cette activité-là, je l'aime intrinsèquement.
Mais moi aussi, je l'aime.
J'attends pas des... Enfin, si, c'est cool.
Est-ce que tu le ferais s'il n'y avait pas d'audience?
C'est cool d'avoir des feedbacks et tout. Non, peut-être pas, mais ça m'empêche pas de kiffer le faire et,
ah,
de,
oui.
Et de sortir de ce truc-là, alors que c'est pas publié, c'est pas monté, c'est pas mixé, en me disant « Putain, j'ai passé un super moment. »
Ouais, mais tu vois, Mélissa, c'est son métier. C'est-à-dire que si elle était maçon, là, on serait en train de construire un mur pour chauffer. Et elle, serait avec nous en train de construire un mur le soir, tu vois, alors que le lundi matin, elle va continuer un autre mur, tu vois. Donc, c'est quand même bizarre.
Elle en fait des stories de son mur.
J'ai envie de demander à Sylvain. Sylvain, t'as fait quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai pris l'Eurostar.
C'est une aventure.
Alors, attends, à 8h du matin. Donc... J'ai regardé par la fenêtre le paysage parce que j'aime bien prendre le train et regarder.
Sauf dans le tunnel.
Surtout dans le tunnel, c'est
sauf dans le tunnel. Mais vous savez que le tunnel, c'est un tout petit bout quand même du voyage.
Ouais. Je suis un peu honnête. Se voiler la face, ça fait aussi
mais non,
du burn-out.
J'ai fait ça. Ensuite.
Est-ce que t'as partagé ça sur tes réseaux?
Oui. Voyage. J'ai pris une photo. Je prends toujours une photo du.
Saint-Pancras.
De la télé avec marqué la direction. Partout, même quand je prends le TGV. Et ensuite, je suis arrivé chez moi. J'ai écrit ma chronique dans l'Eurostar.
Voilà. Je suis arrivé chez moi. Un dimanche matin bien rempli.
Je me suis dit, ma boîte mail est vide. J'ai fini tous mes gros chantiers.
Donc t'as vérifié ta boîte mail?
T'as vérifié ta boîte mail un dimanche midi?
Mais je suis freelance, je m'en fous du week-end et de la semaine.
Mais non, mais justement, tu rentres complètement dans la
réussite. Non, mais écoute, tu vas voir. Je me suis dit, bah ça tombe bien, j'ai pas de travail, donc du coup, je vais pouvoir aller manger à l'extérieur. Donc je suis sorti, il pleuvait, je me suis dit, ah trop cool. Je suis allé manger, je me suis baladé, blabla. Je suis revenu, j'ai maté Netflix. J'ai fait une sieste de 2 heures.
Oh.
Ensuite, je me suis réveillé.
Sachez que là, Sylvain, il fait, j'ai fait une sieste de 2 heures.
C'est pour dire, tu vois, que je suis pas esclave de ce truc-là. Et en fait, pour résumer, encore une fois.
Je suis pas drogué.
Dans tout ce qu'elle dit, là, dans son article, je me retrouve à 100%, sauf sur un truc, c'est que tout ça, moi, je le vis hyper bien.
D'accord.
Et que j'ai aucun problème avec ça. Et que je fais pas de burn-out du tout.
Du tout.
Et ça va hyper bien.
Et quand on me demande de faire un jeu de rôle, j'ai envie de m'appeler Loïc Barbier. Mais je sais pas pourquoi. C'est un hasard complet.
C'est zéro burn-out. D'accord.
Non, mais pour de vrai, moi, quand je lis l'article, je me dis, putain, c'est vrai, c'est exactement moi. Ça aussi, c'est exactement moi.
Non, mais je pense
moi.
Que.
Par contre, tu vois,
je
prends du plaisir à faire tout ça. Quand je suis fatigué, je dors. Je m'en fous. Vraiment.
Je suis malade à un plus haut degré que toi. Parce que, par exemple, moi, c'est impossible pour moi de prendre des vacances. Si c'est pas justifié professionnellement et c'est pas pour des raisons fiscales. C'est-à-dire que j'ai vu Boston, San Francisco, j'ai vu la Corée, mais uniquement pour des salons de jeux vidéo dans lesquels je travaillais, je présentais des trucs. Je ne suis jamais, pas depuis peut-être 15 ans, je n'ai pas fait de voyage qui n'était pas professionnel. Et je suis incapable de le faire. C'est-à-dire, si demain tu me dis on part une semaine à Bali, encore une fois, et tu ne travailleras pas, ben, je ne peux pas. Là, je pète les plombs comme Mélissa qui ne peut pas aller au camp. Ah.
Pour compléter Fibre, moi, je peux prendre des vacances, mais c'est très dur de ne pas les documenter, par exemple.
Ah ouais, ça c'est clair.
À part le camp.
Mais est-ce que c'est un problème, en fait?
Non, mais moi, j'y prends plaisir parce que j'ai toujours fait, mais encore une fois.
Moi, c'est un problème. Des posts sur les réseaux sociaux, c'est de faire tout ça comme si. Enfin, de construire ta marque, de tout faire pour que ça participe à quelque chose.
Ouais.
Tu vois,
c'est ou faire du sens, ou cautionner un acte qui va, effectivement, comme dit Mélissa, te donner cette sorte.
C'est pas d'arrêter d'Internet et de que regarder par la fenêtre.
En fait, est-ce qu'on court après cette sorte d'épanouissement au sens vraiment théorique du terme? Genre, tu vois, vers cette sorte de nirvana ou de bliss, comme disaient les Anglais, on est magnifiquement dans un truc qui est agréable et qui fait du sens et qui en même temps est productif et qui en même temps est assez rentable à tous les étages de notre vie, à tous les moments de notre vie. Mais Das, tu voulais intervenir?
Non, 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 pas du tout.
C'est vrai ?
Ouais, non, non. Je suis en retraite. Je suis le seul qui n'est pas en freelance ou.
Ouais, mais tu participes quand même à 12 émissions.
Tu fais plein d'émissions.
Ouais, c'est vrai que je fais plein d'émissions, etc. Mais moi, j'ai aucun problème à faire comme j'ai fait cet après-midi, c'est-à-dire dormir de 12h30 à 4h30 avec ma fille.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Rien à foutre. Enfin, quand je me lève, je me dis pas, oh, j'ai carbonisé mon dimanche après-midi, j'aurais pu par exemple faire des choses. Ah non, j'en ai rien à foutre. Vraiment, zéro culpabilité. Moi, je prends même un malin plaisir à ne cocher aucune des cases que mes parents ont cochées, à savoir être propriétaire, marié, etc. J'en ai rien à foutre de ça. Donc, moi,
Et son nombre d'heures passées sur Elite Dungeon House en témoigne.
Non, ça fait justement très longtemps que je suis pas allé sur Elite et à chaque fois que je veux y aller, il y a toujours une chronique à écrire ou une émission à présenter.
Tu vois, c'est parce que tu dois faire plein de choses.
Oui, non, mais c'est parce que je le veux bien aussi. Ce que je veux dire, c'est que je me mets pas la rate au courbouillon sur du temps que je pourrais passer à faire des trucs productifs et que j'utilise pour faire n'importe quoi, tu vois.
Ce que dit Dazla et ce que dit Sylvain, du coup, j'ai l'impression que ça va pas à l'encontre de ce que tu ressens, ce que l'autrice de l'article écrit. Mais il y a un côté genre, ouais, on est complètement dedans.
So what?
C'est-à-dire qu'on a 20 millions de side projects et puis on fait des photos cool ou on montre des chaussures cool ou on fait des tweets rigolos ou on raconte un peu ce qu'on fait pour justifier un peu toujours nos actes, etc. Mais ils ont pas l'air malheureux. Alors est-ce que c'est forcément un truc qui rend malheureux ou est-ce que c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, qui est là, qui est neutre, qui est l'identité de cette génération et que certains vivent très bien et que d'autres vivent moins bien.
Elle le lit complètement à, en fait, l'état de notre économie où elle dit, on sait que pour exister, avoir un job, tu vois, on doit faire tout ça.
Ouais.
Et après, tu le fais plus ou moins consciemment. Sylvain, t'es complètement conscient de ce que tu fais et tu peux plus ou moins bien le vivre. Elle, en fait, elle dit, moi, j'avais l'impression d'être en pleine forme et tout, d'être hyper heureuse et tout, et je comprenais pas pourquoi certains trucs, ça commence comme ça, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à faire polir mes couteaux, c'est son truc, elle. Et elle dit, j'avais l'impression d'être heureuse parce que j'étais dans un truc hyper positif où je faisais plein de trucs, et c'est vraiment ça, tu vis hyper bien, tu vois. Et à un moment, elle dit, mais pourquoi j'arrive pas à faire polir mes couteaux, tu vois.
Ouais.
Et elle dit, en fait, j'étais en burn-out, je voyais pas le contexte de mon truc. Ouais. De,
et ça, c'est intéressant, l'idée de burn-out, c'est pas une idée de, comme tu dis, rester cloué au lit.
C'est ça, c'est pas forcément faire une dépression. Pour nous, c'est genre vraiment, moi, ça fait 10 ans que je travaille non-stop, et tu vois, dès que je m'arrête de travailler maintenant, je vais pas bien, quoi. C'est chaud.
Et je pense aussi que Sylvain et Lame, vous dites, je subis ça, mais je le vis plutôt bien, parce que vous êtes peut-être au début du voyage. Mais peut-être c'est que vrai. Si vous maintenez le rythme pendant 10 ans, au bout d'un moment, non seulement vous direz, je suis fatigué, je sais pas pourquoi, burn-out, et en plus, je suis incapable psychologiquement d'en sortir parce que j'ai une habitude de vie et j'ai une culpabilité immense et j'ai des blocages qui font que je ne peux pas sortir de ce rythme de vie.
Je suis assez d'accord avec Fibre là-dessus.
Peut-être. Je vais bientôt m'installer à la campagne à Bar-le-Duc, je pense. Donc.
ça résout rien.
Il y a des hérons quand même, il y a des rivières.
Une rivière.
Il y a des hérons, des rivières. Bon, en tout cas, on rappelle cet article qui a beaucoup marqué Mélissa, qui a beaucoup marqué Fibre, qui s'appelle The Burnout.
How we became the Burnout Generation.
How Millennials Became the Burnout Generation. Sur BuzzFeed, c'est en anglais. Je ne sais pas si quelqu'un l'a traduit. Je ne crois pas que c'est traduit. C'est quand même un beau morceau.
Ouais.
Maxime Barbier pourrait le faire. C'est ce qu'il fait maintenant sur LinkedIn. Il traduit des articles en anglais et il se les attribue.
On attend votre... Je veux bien avoir des témoignages.
Si peut-être que Maxime, il fait des soirées. Parce que moi, je t'ai coupé Fibre. En disant qu'il est très heureux.
Non, je disais juste que je veux bien avoir des témoignages si aussi vous êtes dans le cas de Mélissa et de moi.
Ouais.
Si également, vous avez des solutions qui ne sont pas... déconnectez-vous, méditez à 6h du matin.
C'était plus déculpabiliser, non?
C'est pour ça que je vais aller au camp, mais c'est pas pour me déconnecter pendant 4 jours, c'est pour que ces 4 jours où je fais moins de choses, ou fais des choses qui prennent plus de temps, qui sont plus lentes, qui indépendantes de moi, je puisse réapprendre à faire ça.
Ah, tu vas voir quand tu vas faire ton premier feu, tu vas voir ce que ça veut dire. Quelque chose qui prend du temps.
L'orage.
Tu vas voir ce que c'est que la notion du temps.
C'est une dédensification du temps.
Très bien, très bien. Bah, écoute, en tout cas, on ouvrira les sujets évidemment sur les forums pour en discuter, parce que l'article, encore une fois, est un article énorme qui touche le numérique, donc c'est pour ça qu'on en parle, mais pas que. Donc ça touche beaucoup, beaucoup de choses. Les parents, la société, l'argent, le capitalisme, on en a parlé. Très bien. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième FAQ de l'émission.
FAQ.
Alors, attention. C'est Emile Land qui nous pose cette question sur Twitter et qui nous dit...
Emile Land qui vous offre des pins et des stickers et oui. À chaque 404.
Tout à fait. Pour le site. Kodak réédite une Super 8. Nintendo, Sony, Neo Geo, Atari réédite des vieilles consoles. Polaroid, j'en parle même pas. Quelle serait la réédition objet technologique qui vous ferait rêver? Alors, c'est vrai que c'est un peu la mode en ce moment des Nintendo Mini... de l'Atari 2600 en bois, du retour de la Super 8, des trucs vinyles de chez Technics qui vient de réannoncer des platines. Alors, un objet technologique de à l'ancienne qui sera en mode réédition bien propre qui vous ferait rêver. Fibre.
Alors, j'en ai un pour rigoler et un sérieux. Donc, pour rigoler, j'aimerais bien avoir un lecteur, enfin, genre un Netflix sur mon smartphone, mais qui refait complètement la 5. Donc avec le petit logo la 5, les publicités Raider, tu vois, les vraiment de l'époque, tu vois, ouais, en 4 tiers.
Alors faire des 90s, quoi.
Ouais, mais non, c'était des années 80, tu vois, tu as un bon Star Trek de ton enfance, mais ça c'était pour déconner. Non, en vrai, il y a une mode un peu dans les jeux vidéo en ce moment, c'est ils refont des jeux qui réémulent le CGA. Donc vous savez, c'est quatre couleurs, dont beaucoup de magenta, beaucoup de bleu, tout ça. Et en fait, on a tous ces jeux des années 80 qui étaient très bien. On peut pas y jouer aujourd'hui. Enfin, on peut difficilement y jouer parce que les émulateurs, parce que les PC vont beaucoup plus vite à l'époque. Beaucoup de jeux étaient indexés sur la vitesse d'horloge, bon, etc. Donc, une console de jeu qui émulerait les jeux PC en quatre couleurs ou en deux couleurs des années début des années 80, ça me plairait beaucoup.
Donc, un émulateur, quoi.
Non, genre mais portable,
RetroArch, quoi.
Portable, mais qui aussi
sur console Android, par exemple.
Mais qui aussi fonctionne pour certains jeux. Il y a certains jeux pour lesquels ça ne peut pas fonctionner.
Genre Scum VM.
Non, pas pour Scum. Okay. On va pas rentrer dans la technique, mais en tout cas, voilà, pour ces vieux jeux-là.
Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un a un objet qu'il souhaiterait voir réédité et modernisé?
Moi, j'ai un objet, ouais, que j'aime bien.
Daz.
J'en ai deux. J'ai le lecteur de mini-disques, mais je saurais pas quoi foutre avec.
Il y en a qui marchent encore,
hein. Ouais, mais ils en vendent.
Mon père en a toujours, hein.
Ouais, moi, j'en ai un qui fonctionne encore, mais je veux dire, t'en trouves pas dans le commerce, tu vois.
Qu'est-ce que t'en ferais?
Je sais pas. Mais l'objet en lui-même, avec les petits disques,
c'était
cool.
Le son était bien.
Ouais.
Et puis, le Nokia 8810.
Oh, ah là là. Le Sirocco?
Le Sirocco.
Sirocco, c'était un des derniers Nokia 88.
Non, il était gris en tracite avec le clapet qui coulisse, ouais. Tout petit, comme le 8210 que tout le monde avait, mais ouais. En super premium, titane, je sais pas quoi, là.
Ah bah, si tu voudrais regarder Nokia Sirocco, qui était le dernier de Nokia de luxe de la série 88.
Je vais regarder, alors.
Et qui est vieux, hein.
Mais j'aimerais bien, ouais, parce que j'ai entendu dire qu'ils voulaient rééditer le Motorola Razr.
Ouais. Ouais. Mais qui serait du coup complètement avec un écran pliant OLED, ouais. Et tout. C'est pas du tout un truc à touche à l'ancienne.
Ouais. Ah. Ouais. Moi, j'allais dire ça, du coup, en réponse à la FAQ.
C'est quoi? Un Razr?
Un smartphone avec un clavier AZERTY physique.
Donc, un BlackBerry?
Non, mais qui coulisse comme le Razr. Moi, j'ai eu le Razr, la grosse brique, là, j'aimais beaucoup ça.
Ah, attends, parce que là, tu fais trois téléphones différents. Parce que là, j'ai vu Daz qui a trigger aussi. Quand ça coulisse, c'est pas un Razr. Quand c'est une grosse brique, c'est pas un Razr.
Le P800 ou le P910 de Sony Ericsson, par exemple.
En fait, tu veux un BlackBerry ou pas?
Il y avait un clapet.
Il y avait un clapet, mais du coup, t'avais un écran full screen.
C'était un Motorola avec un clavier qui coulissait, en fait.
Ah non, c'était le Nokia N900, ça.
Non, c'était un Motorola qui était à l'époque des Danger aux États-Unis quand ça cartonnait.
Parce que le N900, il fait pareil.
T'as la discussion, c'est camoulox, quoi.
Le Nokia N900, t'as un vrai clavier coulissant, sauf que ça tourne avec du Symbian et donc c'est de la merde.
Oui.
On peut pas tout avoir.
On le retrouvera. Mais en tout cas, avec un clavier coulissant, quoi. Un côté mécanique dans le téléphone.
C'est quoi ça, alors?
Droid 4.
Oh, mais ça, c'est du genre Droid.
C'est la semaine dernière, ça. Oh là là. Ils 4. Sont chiants, ces millénials.
C'est ça pour toi, un vieil objet technologique, c'est un palais?
Qui date de 2007.
On va lui montrer un radiocassette.
Il y a 200 à l'heure.
Je voulais attaquer en disant, justement, c'est un truc très récent. J'ai un truc plus ancien, si vous voulez. C'était un jouet que j'avais quand j'étais petit, qui était un stylo, qui faisait magnétophone. Et c'est un stylo espion, mais il était gros et tout en plastique, donc ça se voyait que c'était un jouet pour enfants. Mais tu pouvais quand même le mettre dans une pièce, enregistrer une conversation et ensuite venir le chercher plus tard et écouter ta conversation.
Oh, le stalker avant l'heure. Mais ça, c'est un objet technologique vieux.
Bah, je pense que c'est comme ça, genre ça existe encore, mais les lecteurs de cassettes vidéo.
Ouais.
Parce que mon grand-père filmait pas mal de trucs quand on était petit.
Ouais.
Et je pense qu'il y a plein de cassettes vidéo où genre j'ai des souvenirs de ouf.
Ouais.
Magnétoscope. Je les ai plus.
Et bah, tu peux les donner à une entreprise qui les numérise.
Ouais, ça va me coûter une blindasse, non?
Oh, pas vraiment.
Oh, ça coûte pas cher, ça.
Ça coûte pas si cher que ça, la numérisation super.
Vous savez que, genre, les appareils photo jetables, là, ça vaut une blinde. Enfin, ça vaut genre 15 balles.
Ça vaut très cher.
Et faire développer ça.
Ah bah oui ça.
Et donc les cassettes vidéo, j'aimerais bien avoir un petit magnétoscope pas cher qui me numérise tout là, qui fasse des petits fichiers MOV.
Les Akai, les Akai.
Non mais je crois vraiment que c'est genre 15€ la cassette hein.
C'est cher.
C'est cher ouais.
Bah ça dépend, c'est les souvenirs de ton père que tu as.
Ouais mais si t'as 50 cassettes, tu sors un petit.
Ah oui ça c'est sûr.
C'est un petit billet quoi.
Sauf si c'est.
Si pouvait y avoir un truc très simple.
Enregistré sur la 5 avec le petit logo la 5.
T'arrêtes avec la 5 toi.
Bah c'est tellement
cette obsession.
Bon, très bien. Ben voilà des suggestions en tout cas de l'équipe pour des objets technologiques qu'on remake.
Comme on... L'âme, t'as pas répondu, toi.
Ah oui, c'est non, mais moi, c'est pas mon job de répondre.
Non, mais vas-y, un petit objet là, c'est tech.
Il a pas eu le temps.
Qu'est-ce qu'il y avait comme objet que j'aimais beaucoup? Je pense que les Sony Clier, j'étais vraiment fan.
Ah putain, ça aussi, quoi, pareil. C'est comme le mini-disque en fait.
Les Sony Clier, c'était les PDA Palme, de Sony à l'époque.
Palme de Sony. Qu'est-ce que tu fais avec?
Bah rien.
Avec un NZ90, qu'est-ce que tu fais avec?
C'est un bruit stylet quand même.
Franchement, tu notes les facs. Ouais. C'est quoi, on devrait prendre un vieux téléphone comme ça et être le seul appareil autorisé au camp.
Oh, ce serait dur. Ce serait dur.
Tu notes en T9.
Non, il y a un seul objet qu'on avait quand on était gamin, c'était une demi-manette de Super Nintendo. Et c'était des concours pour appuyer le plus vite possible sur des boutons. Donc c'était vraiment... Ça n'enregistrait que le nombre de boutons d'input en fait, que tu faisais à la seconde. Et ça avait le design d'une manette Nintendo sans la croix de direction. Et on s'arrachait les doigts parce qu'on frottait le...
Ah mais sans jeu à l'écran, c'était juste frotter la manette. C'était
juste un compteur.
Un petit compteur numérique. Quoi. Putain. Excellent.
Wow.
Je veux bien une réédition, c'était top. Mes doigts se rappellent encore, on se saignait les phalanges là-dessus. Quoi.
Avec des piles là-dessus.
Avec des chaussettes.
On faisait ça avec des stabilos à la fin. Mais bon, allez, on attaque tout de suite le troisième sujet. Attention, ça va parler robots. Attention, c'est Sylvain Palais.
Sujet numéro 3.
Raciste, sexiste, rempli de biais, nous avons un peu trop bien élevé nos IA.
Depuis que l'équipe de 404 est woke, on se pose beaucoup de questions sur la manière dont nous concevons le monde. Et chaque mois, cette émission fait vaciller un petit peu plus nos certitudes. Faire preuve d'autant d'autocritique et de modestie à 40 ans en moyenne. Bravo les gars, les jeunes que nous sommes avec Mélissa ne peuvent qu'applaudir vos remises en question. Jugez plutôt si vous ne me croyez pas. Fibre Tigre ne prend désormais plus sa voiture pour les trajets courts.
Je n'ai jamais eu de voiture.
Fibre Tigre revoit complètement son éducation féministe.
Vite fait.
Merci Yann. L'âme questionne chaque instant sa masculinité.
Oui.
L'âme questionne chaque instant le rapport de Daz à la masculinité.
Tout le temps aussi.
Je me pose plus de questions.
Mélissa soupire de dépit de moins en moins souvent lors des chroniques de Fibre, surtout pendant cette émission. Elle était très d'accord avec lui. Daz entre dans sa seconde année de la bienveillance.
Ouais, c'est dur.
Le monde progresse, et nous avec, et ça, c'est super. Sauf que, autant de wokisme amène de grandes responsabilités.
Tu valides les termes, ouais.
Et en tant qu'observateur assidu du monde et des usages numériques, nous prenons très au sérieux notre rôle de vigie et de boussole de la société. En deux mots, nous sommes des lanceurs d'alerte.
Allez, carrément.
À l'instar du docteur Laurent Alexandre, je me passionne pour l'intelligence artificielle et la robotique. En effet, cet éminent scientifique de droite nous met en garde chaque jour sur son compte Twitter de l'incroyable potentiel de cette ère qui s'ouvre à nous, mais également du revers de cette médaille. En quelques mots-clés, singularité, Terminator, asservissement de l'espèce humaine, Matrix, Jean-François Copé. Des peurs issues de la science-fiction que l'on arrive très bien à conceptualiser. Je veux dire, on a les images en tête, on sait tout à fait à quoi ressemble ce futur-là. Mais, tels de vieux loubards de la PJ, nos années d'expérience à observer le monde nous ont donné comme un sixième sens. Le récit qui est raconté, le fameux storytelling, cache des vérités bien plus complexes. Et souvent, pour une raison plutôt évidente, ce récit, il est écrit par des hommes blancs.
Tiens, tiens, tiens.
Pour l'IA, comme pour le reste. Laurent Alexandre, Elon Musk, Sergey Brin, Yann LeCun, et bien d'autres, tous les gourous de l'intelligence artificielle mondiale. Je veux dire, mince, ça commence un petit peu à se voir. Les véritables menaces de l'IA et des robots, en fait, elles sont déjà là, bien présentes, dans notre poche et sur nos bureaux. Ces menaces, elles sont transmises par nous, les architectes, les constructeurs, les designers de ces nouvelles technologies. Incapables de nous rendre compte de nos propres biais, nous contaminons nos créatures avec nos modèles de pensée. La reproduction sociale s'applique aussi à la fabrication d'algorithmes et d'humanoïdes. Vous voulez des preuves? Tenez mon pot de cervoise et gardez-le par-devers vous. C'est le All My Beer en français. Vos assistants intelligents ont tous des voix de femmes par défaut. Ah tiens, oui, c'est vrai, comment ça se fait? Hypothèse. Les designers et développeurs responsables de leur conception sont peut-être en majorité des hommes blancs issus de la broculture de la Silicon Valley, dont on a déjà parlé, et estiment de manière tout à fait normale qu'un assistant qui répond à toutes vos sollicitations sans broncher doit être une femme. Parmi les exemples de robots humanoïdes que vous avez pu voir à la télé, sur Internet ou aussi CES, combien sont noirs? Aucun. En fait, il en existe un seul dans le monde, fabriqué par Hanson Robotics à l'image de sa CEO. Je vous laisse taper robot dans Google Images et me dire quelle est la couleur prédominante. Vous connaissez aussi certainement l'exemple du distributeur de savon qui n'en distribue pas aux personnes noires.
Oui.
Ce n'est pas le robot qui est raciste, c'est celui qui le fabrique. Parce qu'il a oublié de tester son produit sur des personnes d'une autre couleur que la sienne.
C'est incroyable.
J'en passe et des meilleurs, la reconnaissance d'image de Google qui confond des personnes noires et des gorilles. On pourrait en rire si c'était pas si grave. Le Face Unlock qui ne fonctionne qu'avec des blancs, etc. Non seulement nous transmettons nos biais racistes et sexistes aux algorithmes, on en a beaucoup parlé, mais il semblerait qu'en plus nous les projetions sur les robots, humanoïdes ou non.
Comment ça ?
Une récente étude conduite par le Human Interface Technology Lab de l'université de Canterbury en Nouvelle-Zélande révèle deux choses. La première, c'est que nous racialisons les robots. Alors attention, je ne parle pas des robots avec une peau synthétique en mode Cylon évolué dans Battlestar Galactica. Je parle du NAO de SoftBank Robotics.
D'accord.
Donc un robot en plastique avec une coque en plastique qui ressemble vaguement à un être humain. Et ben, en fonction de la couleur de cette coque en plastique, blanche ou noire, les participants à l'étude tendent à assigner une certaine origine ethnique au robot.
C'est fou ça.
Dans l'étude, ils disent race, mais on est plus subtil que les anglo-saxons là-dessus. La seconde découverte, c'est que les participants projettent aussi sur les robots noirs ou blancs les mêmes biais racistes que sur les humains. Pour le dire simplement, grâce à l'expérimentation du shooter test, on monte des images très rapidement et on doit dire en tant qu'officier de police sur qui on tire, eh ben, les participants ont plus tendance à considérer les robots en plastique noir comme constituant une menace que les robots en plastique blanc.
C'est fou.
Alors que faire ? Bah, une première solution, ça serait de créer des robots neutres, autant au niveau du genre qu'au niveau de l'origine ethnique. Ça donnerait, disons, des robots d'apparence androgyne, avec une voix androgyne et de couleur verte. Pourquoi pas ?
C'est vrai qu'il n'y a pas de robot vert.
Mais il faudrait l'imposer à tout le monde, ce qui est plutôt bof-bof et pas très pratique. La seconde solution, elle consiste à éduquer les gens qui conçoivent les machines. Aujourd'hui, plus que jamais, les métiers d'ingénieur, de designer, de développeur doivent s'accompagner d'une formation en éthique, d'une formation en sociologie. Ils doivent comprendre qu'à partir du moment où un produit ou un service est utilisé par des gens, bah, ce produit il a un impact social. Mmh. Et les créateurs du produit sont responsables de cet impact social. Aujourd'hui, les gens qui créent des produits ne pensent pas vraiment à ce que ça va donner sur le terrain. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à faire de la discrimination positive ? C'est-à-dire faire exprès de mettre une voix d'homme sur un robot assistant ? Choisir le noir pour un robot qui accueille des gens dans un lieu? Ben moi, je suis pour. Parce que la défense principale des concepteurs, c'est généralement « Ah non, mais attendez, c'est pas volontaire du tout si mon robot assistant est une femme blanche servile avec d'énormes seins. J'ai pas vraiment pensé à l'apparence, hein. Moi, je me suis concentré sur l'IA. » Et c'est justement ça, le problème. Si on ne combat pas consciemment et volontairement, les biais finissent toujours par s'incruster. Et c'est jamais de notre faute. Donc si la société de demain doit être composée de robots sociaux, c'est-à-dire des robots qui seront là pour soigner, pour accompagner, pour nettoyer, voire même pour nous éduquer, eh bien faisons en sorte de ne pas répéter les mêmes erreurs qui tâchent encore durablement, aujourd'hui, l'histoire de l'humanité.
Bravo Sylvain. Bravo. Toujours un petit côté palais 2022. Hein. Il est...
J'ai envie de manger du quinoa après
très,
un truc
très, très woke hein, comme chronique. Hein.
Oh, c'est ultimate woke.
comment on appelle les gens qui sont woke? On peut les appeler les wokies?
Les woksters?
Les wokies, c'est pas mal.
Les woki woks. Les ewoks.
Les ewoks. On appelle
les woksters, non?
Les woksters. Ça, c'est les woke, mais ironiques.
Ah,
voilà.
Ah, bah, c'est nous, ça.
Les ouverts.
Les éveillés, les ouverts.
Éveillés, ouais. Les éveillés.
Fibre est pas du tout.
Fibre s'en foutait de cette chronique parce qu'il est pas woke. Donc, Fibre, il envoie des SMS, il a regardé des meufs à poil.
Non, j'ai mon smartphone dans la main parce que j'ai tellement de choses à dire que je suis en train de prendre des notes pour
démonter cette chronique.
Il était sur Channel NSFW de Discord, ils s'en foutaient complètement, bien sûr. Alors, qui voudrait réagir en premier, donc, à cette chronique? J'ai vu que Daz et Mélissa étaient assez, interpellés, par les propos.
En tant que racisé, comme on dit.
Tout à fait.
Voilà. C'est un point, effectivement, qui m'interpelle énormément et vous savez que je tape allègrement sur les ingénieurs blancs de la Silicon Valley qui m'exaspèrent au plus haut point.
Néanmoins. Ne spoil pas ta chronique à venir.
Néanmoins, j'ai une question. Est-ce que le noir dont tu parles, enfin, tu parles du noir versus le blanc. Moi, je vois plus un combat du clair versus l'obscur, plus que du blanc versus l'africain, tu vois.
Alors, tu parles plus de coloris que de visage, par exemple.
Dark Vador est noir et le noir est moins accueillant qu'un truc blanc immaculé, en fait.
Bah non, parce qu'au Japon, le blanc, c'est le deuil.
Dans la culture occidentale.
C'est un très bon point.
C'est les couleurs.
Dans la culture occidentale, c'est le noir qui serait. Associé à la négativité.
Ouais, le noir est moins. Je le vois pas comme du racisme.
Pourtant, 2019, c'est l'année du mode nuit sur toutes les applications du monde.
Oui, non, mais je parle du plastique noir qui absorbe la lumière, qui n'est pas forcément signe d'accueil.
J'ai plus soirée, c'était mon deuxième point que j'ai noté sur mon smartphone parce que je vous respecte. Effectivement, dans la fiction, le noir, c'est les méchants.
C'est les méchants.
Et les blancs, c'est que ce soit le Seigneur des Anneaux ou. Alors, mais également dans la réalité, mais... c'est-à-dire que quand on est sur un terrain de guerre, et ben, les gens qui ont un drapeau blanc ou qui portent un uniforme blanc, ce sont les médecins, ce sont les gens qui vont parlementer, tout ça, etc. Donc aujourd'hui, il y a un code couleur inconscient dans la culture.
C'est un code couleur encore une fois occidental. Non, mais la notion de drapeau blanc de médecin blanc,
oui, mais
pas,
je veux dire,
c'est pas universel,
donc c'est pas le problème du robot, c'est un problème qui est beaucoup beaucoup plus global.
Oui,
mais
comme dit
Sylvain, le robot, des robots qui sont pas avec les problèmes universels. Oui. Est-ce que tu ne commences pas à combattre le truc
sur le sexisme, vrai. Je suis d'accord. Sur les assistants vocaux avec des voix de femmes, etc., machin, je suis complètement d'accord.
C'est vrai qu'aujourd'hui, alors on en parle avec Sylvain, alors Siri, on peut choisir entre un homme et une femme. Mais je crois que de manière écrasante, c'est la voix de femme qui est utilisée. Alexa, c'est un prénom de femme.
Moi, j'ai mis un homme parce que j'aime bien.
Cortana, c'est une femme.
Ouais. Parce que les études disaient que tout le monde était plus convaincu par les voix de femmes.
Mais que les gens, ouais, peut-être qu'ils avaient moins de peur.
Mais du coup, c'est un peu...
On aurait moins peur d'une voix de femme d'assistante. Et
mais c'est juste parce que
c'est du côté maternel, peut-être.
Non, mais c'est de la misogynie intégrée, quoi. C'est genre, ah, les femmes, elles sont plus douces, elles sont plus tendres, elles sont plus souriantes.
C'est vrai qu'elles sont...
Ça me stresse moins, parce que souvent, les assistants vocaux, ils se plantent, donc ça stresse moins quand c'est une femme.
Pourquoi?
Parce que moi, ça me stresse moins, et vous?
Oui, bah exactement.
Ah bon?
Moi, je suis pas woke, je m'en fous.
Putain, mais tu parles de... Je peux faire une comparaison?
Vas-y.
Oui, vas-y. Douteuse, vas-y.
Avec Christian Clavier.
Non, mais vraiment, quand j'entends ce genre d'argument, j'avais vu Green Book récemment, ce film que je vous conseille.
Excellent, excellent.
Excellent. Et à un moment, le mec, il dit. Je le spoil du pas. Enfin,
vas-y,
je suis pas vraiment spoilant. C'est un truc de racisme.
Les gens sont au courant qu'ils vont se faire spoiler sur Green Book, donc ils pourront faire avance rapide de 30
ans. En gros, il se retrouve dans le sud, vraiment, avec un mec raciste, et le mec lui dit. Au mec qui fait de la musique, il lui dit vous pouvez pas manger là, vous comprenez, ça fait. 200 ans qu'on fait comme ça,
c'est
on peut pas changer quoi.
D'accord, le héros est noir. Hein.
Le héros est noir. On peut pas changer les choses comme ça. Et quand tu dis ça, tu dis moi je préfère les femmes. Les voix de femmes ça m'adoucit. C'est ça quoi.
Oui.
C'est que c'est un truc intégré.
Un truc
tellement intégré
dans ton éducation.
Ah, c'est bon, tout le monde fait comme ça,
structure.
Tu vas pas faire chier, tu vois.
Ça a toujours été comme ça. C'est la fibrite.
Bah écoutez, je fais mon cheminement woke, il y a pas de problème.
Le
merci.
Forcez pas à se déconstruire maintenant parce que sinon il va tomber en lambeaux.
J'ai une petite anecdote sur la technologie et les races. J'ai une maladie aux yeux, pour laquelle je dois aller au 15-20 tous les 6 mois.
Okay.
Et un jour on me dit, il y a une équipe de Japonais au 4e étage, ils ont inventé une machine fantastique pour vous serez le premier au monde à le tester, est-ce que vous voulez? J'ai dit, bah oui, pourquoi pas. En plus, j'ai rencontré des Japonais. Voilà. Donc, je mange, je remplis des documents. Attention, c'est la machine, je dois dire à personne ça. Je rentre dans cette machine. Et là, j'ai une douleur atroce. Atroce. Et j'ai l'impression de mourir. Pourquoi? Parce que cette machine m'écrasait la tête et notamment le nez. Et les pauvres chercheurs japonais n'avaient pas du tout pensé qu'on pouvait avoir un nez un peu plus long, nous,
oui,
en France.
Un quart de bris, quoi.
Voilà. Ils rentraient tout à fait dans leur machine qui écrasait leur nez. Voilà. Et du coup, ils ont dit, on doit tout arrêter ou on doit faire un trou dans la machine. Voilà. Non, tout ça pour vous dire que ça me rappelle un peu son histoire de robot, puisqu'effectivement, ils étaient juste dans leur écosystème de nez, on va dire, moins pointu que les nôtres. Et donc, effectivement, parfois, malheureusement, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, malheureusement, tu manques...
C'est exactement ça.
Ce que dit Sylvain, c'est que ce ne sont pas des gens qui sont... ouvertement ou activement racistes, ce sont
exactement.
Des gens qui transmettent, portent des biais et des sédiments racistes. En fait,
c'est le truc de Brotopia, quoi. C'est vraiment, tu nages dans ton truc et tu te dis, ok.
Ouais, il n'y a pas de volonté de nuire, en fait.
Ouais, il n'y a pas de volonté de nuire ou d'être méchant ou de faire la ségrégation, mais tu portes
en toi. J'ai pas fait exprès, quoi. Oui. Mais c'est pas volontaire.
Je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Je pense que je ne vais pas m'opposer à ta chronique parce qu'elle me semble de bon sens. Mais je vais aller un peu plus loin parce que, en fait.
Merci, Fibre.
Merci. Merci, Seigneur.
Je parlais des intelligences artificielles. Qu'aujourd'hui ont des biais racistes.
Oui.
C'est-à-dire les intelligences artificielles, par exemple dans l'exemple de distributeur de savon qui ne distribue pas au noir, c'est une intelligence par réseau neuronal qui a appris et finalement on lui a pas donné suffisamment de modèles blancs.
C'est pareil qu'une webcam aussi, hein, qui n'avait pas reconnu.
Non, c'est un truc tout bête, c'est juste que le produit n'a pas été testé sur des gens noirs, c'est un capteur de lumière à la con. Ouais.
Ah d'accord, ok, un capteur de lumière. Bon, en tout cas, il y a un problème, il y a un dilemme au niveau des IA.
Pourtant, la peau des mains est de la même couleur pour tout le monde. Et ça m'inquiète.
Non, parce que les mecs qui passaient leurs mains en dessous avaient des mains assez sombres dans la vidéo.
Ah bon, putain.
Même la peau.
C'est bizarre.
Oui, il y a un
dilemme pour les IA, c'est que si tu... les IA, en fait, elles prennent les données du monde entier, par exemple tous les tweets, et elles te sortent des choses avec. Et si tu commences à mettre des biais dedans, en fait, tu biaises la réalité. C'est-à-dire, quand le monde est raciste, l'IA, elle te rejette du racisme.
Mais c'est pour ça que Sylvain parle de discrimination positive.
Oui, mais quand tu mets de la discrimination positive, c'est-à-dire que si au niveau de l'algorithme, tu dis... Maintenant, il faut arrêter d'être raciste. tu es différent. En fait, tu perds la valeur ajoutée de l'IA, qui est de redonner un miroir. En fait, c'est un miroir, l'IA.
Ah oui, d'accord.
Et si tu modifies ton miroir, en fait, le problème, c'est que ça te renvoie un reflet plus beau. Mais
pas
donc,
la réalité.
Donc on a plus beau, mais ça va pas te changer
c'est
toi.
C'est pas plus beau, c'est plus sain, c'est pas pareil.
Plus sain, en tout cas, différent en tout cas, mais le
enfin le robot, il est pas là pour
l'idée, c'est
le
plutôt
de la réalité.
Pour ah, les, oui. Ouais, c'est plutôt la société qu'il faut changer
mais
plutôt
là, tu
que le robot.
L'extrait du film de Mélissa qui dit on a toujours fait comme ça, donc on peut pas changer.
Au contraire, je
sens... non, si tu, tu dis ton IA doit refléter le monde tel qu'il est aujourd'hui sans le faire évoluer. Tu dis tu résumes la scène de Greenpoint de Mélissa qui est l'époque. Ça a toujours été comme ça. Et ça changera pas.
J'ai peur que de changer le miroir, c'est de mettre un pansement sur une situation, alors que de la guérir durablement consisterait à changer la société et à dire le problème n'est pas dans le robot, le problème n'est pas dans l'IA, le problème il est dans la société à la base.
Oui, mais si ça... le robot fait partie de la construction de la société,
tu
comme Sylvain parle d'un robot d'éducation.
Après ton postulat de base, c'est qu'une intelligence artificielle va prendre tous les contenus de l'humanité pour faire un miroir, mais en fait tu lui donnes un terrain à ton intelligence artificielle. Donc tu,
oui,
vas quand même, tu vas quand même sélectionner les trucs à l'avance.
Mais non, mais
de toute façon, c'est biaisé.
Pour Yuri, vous lui avez filé toute la littérature du début du 19e siècle.
Ouais. Et les racistes.
C'est pas Jojo, hein. Bah donc ouais, forcément, Yuri est raciste. Bah oui.
Oui.
Donc du coup, il y a un biais dans ce que tu vas donner à cette IA.
Dans tous les cas, ce sera jamais le reflet exact de la vie, quoi.
Et on l'avait vu avec eux aussi, à l'inverse, si toi tu veux être neutre, ton corpus de connaissances ne peut ne pas être. On l'a vu avec l'intelligence artificielle de Microsoft,
oui. Sur Twitter,
qui était Tay-Tay, qui était mis sur Twitter et qui au bout de 24 heures disait vive Hitler et qui postait des messages complotistes parce que les gens l'avaient trollé immédiatement pour
la biaiser.
Pour biaiser son
corpus. En fait, j'ai peur que juste sur le domaine de l'IA, qui me semble intéressant parce qu'il voilà, il se tourne un peu vers le futur et il y aura des vrais dangers là. Je pense que l'argument que va vous opposer les gens, il va vous dire voilà, on a une IA qui, par exemple, régule le trafic routier. Vous avez décidé de mettre ce biais pour qu'elle soit pas raciste, mais malheureusement, elle n'a plus ce degré d'efficacité qu'on avait avant. Voilà.
Donc, ça veut dire que pour toi, t'éloigner de la situation actuelle, c'est même pour le bien, c'est perdre en efficacité. Les deux sont pas compatibles. Tu peux pas avoir une IA qui est efficace, mais qui est woke.
Le problème de l'IA, c'est que à l'heure actuelle, c'est une boîte noire. C'est-à-dire que ça fonctionne et on ne sait pas pourquoi. Donc tu es obligé de mettre une rustine en bout de chemin pour dire bah voilà, tu vas ajuster ton comportement comme ça. Et à ce moment-là, la donnée intrinsèque, si elle change de base, ta rustine, tu es pas sûr qu'elle va changer après. Voilà. Il y aura des vrais problèmes. En tout cas, la question mérite d'être posée.
D'accord. Mais ça c'est pour l'IA, mais du coup pour les robots et juste pour leur apparence, c'est-à-dire les sons qu'ils émettent, leur design, leur couleur, qui sont des choses qui nous appartiennent complètement en tant que concepteurs, designers et penseurs. Là-dessus, le débat est un peu différent, peut-être.
Ce qui est intéressant, c'est que les gens, par exemple, pour Siri, ont le choix entre un homme ou une femme. Ils prennent majoritairement une femme. Je ne sais pas pour quelle raison. Je vais donner un autre exemple. Dans Assassin's Creed Odyssey, on a le choix entre un homme ou une femme, jouer un homme ou une femme. On pensait que la femme a été mise en avant. On pensait que la femme. Ubisoft a donné les stats et c'est l'homme qui est joué à des données 75 contre 25%. Tu vois.
Ouais, mais ça, c'est différent. Ça. Parce que Assassin's Creed Odyssey ou n'importe quel jeu. Tu joues, donc tu te projettes. Donc les gens se disent, bah, je suis un homme, je joue un homme. Par contre, avoir un robot femme ou un robot homme quand toi,
c'est pas pareil que
c'est différent.
Le raisonnement est différent. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent jouer une femme.
Bah non, parce que c'est les chiffres qui donnent le contraire. Bon, en tout cas, ça, c'est un point soulevé par Phil.
Mindfuck.
J'aime bien ça me fait penser au message d'accueil de notre Slack, hein, qui est souvent. Quand je dis que j'ai une théorie, souvent, c'est que.
La suite est complètement fausse.
Toute dernière chose sur donc ces robots, si on veut qu'en termes de genre, en termes d'apparence, en termes d'ethnie, enfin en termes de type de voix, de personnalité, d'accent, est-ce qu'on doit aller sur une neutralité ou est-ce qu'on doit aller sur une diversité ? Pour moi, c'est deux choses peut-être différentes.
Moi, ça m'ennuie
un peu. Toi, tu parlais de neutralité, Sylvain.
Bah,
où on devrait aller vers la diversité, qui est, je sais pas, imaginons qu'on livre des robots et que au hasard les robots ont des voix et des accents différents. Un robot va avoir un accent du sud de la France, un robot va avoir un accent marocain, un robot va avoir un accent serbe. Et en fait, on ne maîtrise pas et c'est comme ça.
En fait, moi, je suis quand même un petit peu inquiet, sur la projection qu'on fait. Je veux dire, tout rapporter, et je dis ça en étant noir, hein, mais tout rapporter à une notion de racisme ou pas, ça serait regarder les gens qui conduisent des voitures et dire si tu prends ta voiture blanche, c'est parce que t'es blanc, tu vois. Et en fait, non, c'est juste parce qu'il y a des gens, ils aiment ça mieux que des voitures noires ou des voitures rouges.
Mais tu dis pas que ta voiture a une personnalité, tu vois. Oui. Alors qu'un robot, tu projettes, surtout s'il est humanoïde, tu vas l'appeler par un prénom, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui appellent leur voiture une titine, mais
tout le monde d'ailleurs. Tout le monde soit la couleur de la voiture.
C'est pour ça qu'on s'intéresse. Je suis d'accord avec ça, qu'on s'intéresse clairement au cas du robot, qui est une projection aussi d'une personnalité ou d'un rapport humain.
Et surtout s'ils prennent la place qu'on pense qu'ils vont prendre.
Oui.
C'est, tu vois, c'est un peu aujourd'hui qu'on est en train de construire. Est-ce que le plus simple,
du coup, ça serait pas de faire en sorte que le robot il soit pas du tout humanoïde pour que justement il reste robot et que tu le
considères. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat.
Un truc à chenille, un poulpe géant, je sais pas, un truc.
Mais tu vois, ça ressemble à ta mère aussi.
Si tu dois.
Reste tranquille quand même.
Enfin, à la mère du processeur.
Ah, ok, d'accord.
Tu ferais tailler par ton robot.
Si les robots, c'est des aides aux vieux, par exemple, dans les, hôpitaux, ou alors qui remplacent les profs, hein, j'en sais rien.
Ouais.
C'est important que ce soit des robots humanoïdes, je pense, pour.
Mais non, parce que dans ce cas-là, c'est un biais aussi de penser que les vieux ne peuvent être rassurés que si le robot il est humanoïde. Mais est-ce que si le robot il ressemble à un gros chat, t'es rassuré pareil, tu vois.
Est-ce que c'est woke si vous venez chez moi et que mon Google Home parle avec la voix d'Eddie Murphy en français?
Non.
Non, on sera pas super woke.
C'est pas woke.
Pas woke du tout.
Voilà.
J'apprends. Non, fibre.
Non. j'apprends. Test and learn.
J'ai hâte qu'on voit le jour où Fibre va créer son robot.
Est-ce que tu vas dire, est-ce que
regardez,
ton Google Home,
cette chose est complètement neutre.
Salut mec.
Il va dire salut mec.
Est-ce que, franchement, c'est sympathique quand même.
Est-ce que ton assistant Google, tu lui dis elle parfois quand on parle à la troisième personne?
Oui, bien sûr.
Ouais, moi aussi.
C'est vrai quoi. Ah, c'est fou ça.
Moi, je dis Siri qu'il est stupide. Parce que si
ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que toi, t'as mis une voix d'homme.
Ouais.
Bah voilà, tu vois, c'est.
Mais des fois, je lui dis merci, tu es merveilleuse, tu m'as vraiment aidé, c'est super.
Non, des fois, je la traite de salope. Jusqu'au cou.
Non, mais c'est vrai.
Est-ce que des fois, tu fantasmes un peu, tu donnes un visage de femme blanche?
Non, mais des fois, je la maudis, je dis, mais vraiment, et putain, t'es conne, tu comprends pas que je vais écouter The Good Place, je veux pas The Good Place, ou tu vois, parce qu'elle comprend pas parfois quand je parle. Mais des fois, je suis gentil avec elle aussi. C'est vrai qu'il y a une autre.
Oh là 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 là.
Non, mais il y a une anthropomorphisation. L'anthropomorphisation.
Bon, des fois, je la gifle, mais parce qu'elle était insupportable. Bon, voilà.
Puis elle devient hystérique.
Non, mais c'est vrai que.
Eh, non, mais, la personne qui vit avec toi.
Mais attendez, excusez-moi.
Formidable
même,
message d'espoir.
Excusez-moi, c'est quand même des objets inanimés, ok? Oui. Et j'ai le droit d'engueuler un caillou, ok? Et ben pourquoi j'ai pas le droit d'engueuler un Google Home? C'est quoi? C'est pas un travailleur indien derrière?
T'as pas
alors,
le droit, c'est que ça prouve certaines choses, quoi. C'est tout.
C'est le fait que tu projettes une personne.
Tu l'engueules comme une femme,
féminine,
en fait.
Sur, ouais.
Que tu sur un rapport inanimé. De puissance.
Non, mais t'inquiète, si c'était un mec, je serais aussi énervé, hein.
Mais n'empêche que t'as choisi une femme.
Mais c'est pas ça. Je crois que c'est Google qui a choisi une femme.
Ouais, c'est imposé.
Ouais, c'est imposé. J'ai pas le choix.
Donc il y a que Siri qui permet le choix entre et
ouais.
Femme.
Siri, mon assistant.
Dommage qu'elle soit si nulle.
Ouais.
Il a un peu claqué, mais c'est comme s'il était en stage depuis longtemps.
C'est le stagiaire qui a jamais validé son truc.
Stagiaire à vie en fait.
Bon, on aura beaucoup de choses à dire et j'aimerais bien parce que je sais qu'on a des auditeurs qui sont souvent assez curieux ou assez calés sur les sujets qu'on attaque, avoir des exemples et d'autres cas en tout cas là-dessus sur des cas avérés de conception, notamment de robots et d'IA qui sont extrêmement
problématiques,
mais qui sont baignés complètement dans nos biais sexistes, racistes, etc., etc. Allez, on attaque tout de suite la dernière FAQ.
FAQ.
Et bien justement, on en parlait à moitié avant l'émission. L'interactif sur Netflix, notamment Bandersnatch, l'épisode spécial de Black Mirror, qui était donc un épisode à embranchement interactif. Est-ce que vous y croyez et qu'est-ce que vous avez, alors est-ce que vous avez pensé spécifiquement de Bandersnatch, donc cet épisode interactif de Black Mirror sur Netflix, et globalement les films interactifs qui sont un peu un serpent de mer des médias, j'ai envie de vous dire, on les a tentés souvent, ça a rarement marché. Dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui a un genre mais qui reste un genre assez débattu. Est-ce que vous y croyez? Alors déjà, qui a regardé Bandersnatch? Mélissa, alors qu'est-ce que t'as pensé de Bandersnatch?
Ah, j'ai pas aimé du tout.
T'as pas aimé le...
En fait, j'ai pas. Non, mais en fait, il y a un truc.
Ouais.
Il y a pas d'histoire.
D'accord. Donc là, tu reviens sur le problème de narration.
Ça se finit pas. On comprend pas. Il y a plein de pistes lancées. Tu te dis, ah, trop bien.
Ouais.
Genre, au début, tu commences à choisir. Tu te dis, ouh, ça va avoir des incidences. Et t'es hyper excité. Et après, tu commences à comprendre des trucs. Et tu te dis, mais. Et à la fin, tu te dis, mais. Il y a pas de fin. C'est des trucs de. Il y a plein d'arches narratives là. Et elles vont nulle part, quoi. Dans des déserts, quoi.
Ils font tous vivre, en fait. T'as pas le choix. C'est-à-dire qu'ils te font faire les trucs les uns à la suite des autres et tu fais toutes les fins, pratiquement toutes les fins.
Ah, c'est très linéaire en fait.
Ah, en fait, t'es obligé de faire toutes les fins.
C'est totalement bizarre. Le système après, ouais. Moi, c'est vraiment l'histoire. Mais l'interactivité, parce qu'en fait, dès que tu fais pas le bon choix, il te ramène au choix que tu dois faire.
Non, pas forcément.
Ah, mais c'est nul.
Souvent, hein, quand même. Ah ouais. Il y a souvent où il te ramène dans le truc d'avant et t'es là, genre, ah ouais, donc en fait, j'ai fait le mauvais choix. Donc, tu sais, il y a un truc de. Déjà, tu vois. Réussite.
Toi,
t'es là,
genre, toi, tu voudrais pas que tu fais de mauvais choix, le mec saute par la fenêtre et se tue et c'est la fin.
Bah oui.
Ouais. Et là, il y a même ouais, pas ça, c'est genre reviens.
Il
si,
y a ça, mais
truc.
Après, en fait, t'as un flashback. Et...
En fait, c'est un replay, ouais. un replay imposé, quoi.
D'accord. Ah ouais, donc c'est un peu décevant. Moi, je l'ai pas vu Bandersnatch. Rapidement, qui a pensé quoi de Bandersnatch? Sylvain?
J'ai trouvé l'ambiance assez sympa, la série et tout. Comme, ouais. comme souvent dans les nouveaux Black Mirror, en fait, l'histoire est nulle, mais l'ambiance est cool. Et sinon.
Ça balance.
Je regarde pas Netflix pour avoir des trucs interactifs, en fait.
D'accord.
J'ai lancé le truc. On était en groupe après une journée de ski. Putain, le dernier Black Mirror, trop cool. On le met, on se met tout au fond du canapé, tous allongés sous des couvertures et tout. Et là, le truc se lance, il faut faire un choix. Personne n'a pu se lever pour appuyer sur l'écran, quoi. C'était pas possible. On était trop bien, donc voilà.
Ouais. Le problème des gens qui font du ski. Hein. Il a calé qu'il allait au ski quand même.
Oui.
Moi je l'ai vu. J'ai trouvé l'expérience intéressante et je trouve ça cool qu'une boîte comme Netflix essaye en fait.
On rappelle qu'ils avaient passé un accord avec Telltale, hein, qui était.
Oui. D'ailleurs, il y a le Minecraft de Telltale qui est aussi sur Netflix.
Et, qui est interactif.
Qui est interactif où tu dois faire des choix gauche droite.
Telltale qui a coulé. Hein.
Oui. Je le dis. Non, mais ok. Mais enfin, je trouve ça cool, moi, que. D'accord. Enfin, tu vois, c'est Netflix, ils produisent des trucs avec des algos pour te faire un machin qui est fine-tuné par rapport à ce que les gens veulent et attendent. Bah, c'est cool qu'ils se permettent aussi de faire des petites expériences.
Ils auraient pu faire tellement mieux.
D'accord. Oui, mais ça, c'est le premier.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que là, ils vont récupérer la data là-dessus.
Bah, si vous sabrez l'initiative, forcément, il n'y aura pas de suite. C'est ça le.
Bah, si, parce qu'ils auront toutes les datas.
Moi, j'aime pas les livres dont on est le héros. Je trouve ça naze. Fibre, il adore.
Ouais.
Bah, là, j'ai
trouvé
ça cool.
C'était pas le cas avec Bandersnatch, c'est différent.
Je trouvais ça cool, mais par contre, j'y reviendrai pas forcément. Enfin, je vais pas en faire mon truc principal, quoi.
Fibre, qu'est-ce que t'as pensé de Bandersnatch?
C'était pas très bien.
D'accord. Pour les mêmes raisons que Mélissa ou pour quelque chose de différent?
En fait, ce qui me déçoit, c'est que, quitte à faire de l'interactivité, il y a des tas de façons très cool. Enfin, c'est pas très rock'n'roll, c'est pas fun, tu vois. Genre, aujourd'hui, à l'heure de Twitch, où Twitch, c'est un truc télévisuel hyper interactif, quand Netflix, il dit, bah nous, on va faire un truc interactif, il propose quelque chose d'aussi faible, bah non, ils sont complètement largués.
Mais Twitch, c'est pas du tout interactif. T'interagis dans le chat, t'interagis.
Twitch,
bah ouais, mais imagine, enfin, quand vous faites des Twitch sur une chaîne télé, une web TV qui s'appelle la JVTV, vous avez le chat en direct. C'est comme si Netflix avait tous ses viewers en direct et pouvait interagir avec. C'est ma boule.
Après, Netflix, c'est du programme, t'as du programme de flux, t'as du programme frais, c'est différent.
Du talk show.
C'est pas du talk show, quoi. Mais c'est vrai.
Non, mais je veux dire, la nature du show, on s'en branle. Je veux dire, Game of Thrones, c'est une fiction. Interactive avec des sondages et avec l'intégration des spectateurs en direct dans l'interaction.
Voilà, okay.
Et je veux dire, on fait ça avec trois bouts de ficelle, donc.
Laisse les gens rêver.
Voilà. Non, mais voilà.
La ficelle de bonne qualité, par contre.
Par rapport à Netflix, voilà. Donc, c'est assez décevant.
C'est vrai que c'est décevant par rapport aux possibilités technologiques.
Ouais, mais faut laisser c'est comme la VR. Si on avait lâché dès que ça avait fait dégueuler les gens, on n'aurait pas Elite en VR aujourd'hui.
Non, mais en vrai, ouais, tu vois, par exemple, on peut faire des trucs patrimoniaux français parce que c'est quelque chose, c'est un serpent de mer qui vient tout le temps. Une pièce de théâtre, genre Les Rois Maudits. Un peu funky, un peu marrante, écrit par des rigolos, tu vois. Interactive, avec t'as des choix à la fin. Avec et les mecs, ils écrivent en direct. Le lendemain, ils écrivent la pièce de théâtre, ils la font, ils l'ajoutent à chaque fois en direct. Et c'est sur Twitch, tu vois. Enfin, on pourrait faire des trucs tellement cool en France, tellement bien. Et c'est Netflix qui le fait, il le fait mal. Alors,
donner de l'argent à cet homme.
Non, c'est
le CNC, si vous m'écoutez.
En plus, il siège, donc il pourra s'auto-valider.
Non, mais c'est pas ça. Mais,
comme Cyprien.
Non, mais les gens, ils sont tous à la ramasse. Et, de toute façon, un jour, il va falloir bien qu'on parle de la télé à Studio 404 et de son futur.
Personne ne la regarde, donc.
Très bien. Bon, en tout cas, voilà. Tu as ta réponse, on est tiède. Tiède.
Glacio.
On est l'eau du bain quand t'as commencé à être plus froide que l'eau du corps.
Voilà.
C'est un moment très désagréable.
Allez, on attaque tout de suite, on va réchauffer l'ambiance tout de suite avec la toute dernière chronique avec l'Amidaz.
Sujet numéro 4.
French Tech, ce que 300 startups françaises montrent à Las Vegas ne devrait pas rester à Las Vegas.
On va pas mettre tout le morceau, sinon on va se faire striker. Historiquement, notre magnifique pays a toujours pu compter sur des ingénieurs talentueux pour parvenir à accomplir ce souhait cher à nos dirigeants depuis les années 60 et la directive du grand Charles de Gaulle, comme vous le savez, rond-point le plus célèbre du monde, faire comme les autres, mais en français. À l'usage, on s'est rendu compte que le « mais » en français impliquait finalement de ne faire comme personne. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui comptait, en fait, c'était la souveraineté. C'est important, la souveraineté, surtout dans un pays qui a fortement tenu à désinguer les souverains à un moment critique de son histoire millénaire. On a donc lancé des programmes ambitieux dans le dernier tiers du XXe siècle, parce que les trucs comme l'aviation, le cinéma ou la conserve alimentaire qui dataient de la fin du XIXe siècle, ça ne suffisait plus à nous faire rayonner. Rayonner, rayonnement, radioactivité, Marie Curie. Vous l'avez ou pas ?
Non,
je l'ai.
Voilà, il y a des gens instruits ici. On voit donc arriver le TGV, le Rafale, le Concorde, le SECAM, le Minitel, la carte à puce, le char AMX-30, le monospace, produits qui partagent presque tous une innovation incontestable comme voler à Mach 2 en buvant du champagne ou tirer des obus en roulant à 90 km/h, et un destin commercial parfois un peu bof. C'est le commerce le vrai souci de notre pays, pas l'innovation en fait. S'il est désormais admis qu'en France, on n'a pas trop de pétrole, pardon, et donc plein d'idées, il est surtout incontestable que côté commercial, on ait des grosses trapanelles. Il fallait changer ça. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a décidé d'aborder le 21e siècle naissant en roue arrière. Wheeling total sur la route du YOLO. Après tout, si les ricains peuvent faire des trucs, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, nous. Arrive donc la French Tech.
C'est glitché ton truc.
Merci Gislain, quel poète. French Tech, donc tech pour technologie et French pour mais en français. Initiative lancée en 2013 quand Fleur Pellerin était mounir sous François Hollande. L'idée de départ est bonne, créer des pôles géographiques permettant d'identifier et d'aider les petites structures qui innovent dans la tech partout en France. On décentralise pour que tout ne se passe pas à Paris, on crée des incubateurs, des espaces de coworking, de co-living, on enseigne l'art de l'elevator pitch, on apprend aux jeunes droitards sortis d'école de commerce à venir bosser en jean et chemise fantasy, à faire des stand-up meetings et à placer So Inspiring quand ils partagent des extraits de conf TEDx sur LinkedIn. Tout
se passe bien.
LinkedIn.
Corrige-toi.
Tout se passe bien, l'enthousiasme est présent, les sceptiques se rallient à la cause, on trouve un joli logo avec un coq en origami magnifique, avec un dégradé, c'est incroyable. Tout va pour le mieux et puis, patatras, arrive l'initiative de trop haut, le truc dispensable, l'ingrédient qui nuit à la cohésion du plat, tel ce Nutella ajouté in extremis dans cette crêpe jambon poulet fromage qui n'en demandait pas tant. Dans le cas de la French Tech, cet ingrédient c'est le forçage. Illustration. La French Tech monte une délégation et l'envoie depuis 2016 à chaque édition du CES. Cool ! Envoyer des émissaires en reco dans le plus grand salon au monde consacré à l'électronique grand public, c'est une idée qui se défend. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'une certaine république en mouvement de type pédestre visant à se rendre quelque part, on fait pas de politique à 404, la visite française du CES de Las Vegas est devenue une démonstration de force visant à montrer au monde entier, surtout si le monde entier est américain, que la France, c'est pas un pays de rigolo.
Donc une démonstration de forçage.
Ah, de forcing total.
Démonstration de forçage.
Et l'édition 2019 n'a pas déçu de ce point de vue-là, puisque jugé, 381 boîtes ont fait le voyage. 381.
C'est plus. J'aime que pas qu'on avait autant de startups en France.
C'est incroyable. Non, alors là, c'est 381 sociétés françaises.
D'accord.
Startups, on va les aborder après. C'est plus que ce que proposait le pays hôte, qui est, rappelons-le, donc les États-Unis, 5 fois plus peuplé et qui dispose donc théoriquement d'un marché et donc de débouchés bien plus intéressants. Mais après tout, pourquoi pas ? Pensons outside the box, comme on dit dans les morning meetings de Station F. En vrai, j'en ai aucune idée, mais j'aime à penser qu'ils parlent franglais à Station F.
Sûrement vrai.
Alors, j'ai téléchargé le catalogue French Tech au CES 2019 pour voir la liste des exposants, en faisant en sorte de rester bienveillant, car telle est mon motto pour cette année.
Bien sûr.
Dans ce catalogue, les exposants sont regroupés en pôles. On a un pôle intelligence artificielle, 65 startups, quand même. Réalité augmentée virtuelle, 28 startups. Tech grand public, 72 startups. Divertissement, 12. Tech familiale, 11. Santé et environnement, 52 startups. Mobilité et ville intelligente, 46 startups. Vente, 10 startups. Maison connectée, 47. Et enfin, sport, 11 startups. J'ai fait le calcul, ça fait 354 startups. Quand même.
C'est beau.
C'est beau. En parcourant la liste, on croise des noms connus comme Quant, Withings, Shadow ou encore Netatmo.
D'accord.
On se demande bien ce qu'ils foutent là, mais la majorité de la liste est constituée de boîtes dont moi perso, j'ai jamais entendu parler. Mais ok, pourquoi pas, outside the box. Ensuite, j'ai commencé à lire la description qui accompagne chacun des exposants. Sans surprise, beaucoup d'objets connectés, de gadgets farfelus comme HipSafe, l'airbag de hanche pour personnes âgées. Pour de vrai, j'invente rien. C'est l'airbag de hanche pour personnes âgées. Et des devices auxquels je prédis un échec certain, comme par exemple la console Wizama, qui promet de fusionner les jeux de plateau traditionnels et les jeux vidéo via une console avec un écran tactile intégré. Super, les gars.
On a fait une tablette.
Incroyable. J'ai croisé des trucs un peu space comme Brightlock, le premier cadenas intelligent en lumière visible. Ok. Et une grande majorité de projets dont je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi ils se destinent. Je vous livre quelques descriptions qui m'ont interpellé. Alors, il y a une boîte qui s'appelle Bzit, avec 3 T. Bzit.
Alors, Bzit.
Non, Bzit. Non, 3 I, pardon.
3 I, 3
I. Bzit.
Attends, laisse-nous deviner. Mélissa, Bzit.
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 Ça, c'est un répulsif à insectes.
Ouais.
Mélissa, répulsif à insectes.
Ouais, un truc anti-abeille, avec une intelligence qui les repère et
pas
qui...
Bon, ça.
c'est disruptif, tu vois, je sais pas.
Anti-abeille, il vaut mieux pas dire ça. Eh bien, alors, Sylvain, t'as eu
un truc qui transmet des données très vite.
Ah, Bzit.
Ouais, un truc d'autodéfense pour électrocuter des gens.
Eh bien, alors, la description, bien sûr, est en anglais. Donc, la description, c'est « Date and IA platform for event success ».
Hein, attends, quoi ?
Donc, rendez-vous et plateforme d'intelligence artificielle pour le succès de vos événements.
Ah, un truc de rancard.
Je sais pas,
pour des...
ouais.
Ah, oui, non, pour des événements.
Un genre de...
Ouais, mais pour que les gens se rencontrent dans l'événement, les participants à l'événement puissent se rencontrer entre eux.
Grâce putain, il est fort.
Ah, un truc de networking.
Comment reconnaît les freelances ?
Ouais, c'est du dating, ouais.
Ouais, mais je sais pas si date, ouais, si date, ouais, dating. Mais event aussi. Bon, bref. On a aussi DC Brain. DC Brain, attention.
Ah, le politique.
The AI solution dedicated to the problems of operating fluid networks. On sait pas si on parle de réseau informatique, de réseau électrique, de réseau de gaz, je sais pas. Alors, le troisième, et je l'aime beaucoup, il s'appelle Blockchain Studio.
Ah, j'attends un blockchain.
Et alors, la présentation, c'est The Simple Way to Blockchain.
Ah bah.
Et là, je n'invente rien. Je veux dire, j'ai pris vraiment l'intégralité de la présentation.
Du coup, c'est quoi, ça vient du premier groupe? Je blockchain, tu blockchain, c'est...
On a Cuzzle, the fastest and most efficient way to deliver innovative web, mobile and IoT applications.
Ok.
Et enfin, on a un truc que je trouve génial qui s'appelle Morphée Plus. Donc, Morphée 2E, voilà. Real-time radar fall detector for elderly people.
Ah, bah, on revient au vieux.
Donc, c'est un radar temps réel pour les détecteurs de chute des personnes âgées. Donc, Morphée Plus, c'est la mort. Tu vois, si le truc seulement marche, c'est que le vieux est mort. Mais
non,
bon.
Mais après, s'il le coupe avec le airbag de hanche.
Avec le hip safe, tu veux dire.
Ils sont là pour networker, les mecs aussi, tu vois.
Alors, ça, c'est juste un petit extrait. Hein. Je passe sur les traductions approximatives. Par exemple, iBanner, avec iBanner can be connected together to create big screen without visible bore.
Visible bore. Ah, le baiser.
Et j'arrive directement à mon top 3. Le premier s'appelle...
Ah, il y a un top 3 en plus.
Ouais, moi, je les ai retenus. Le premier s'appelle Art Design Painting. Il promet d'embarquer de l'AR, donc la réalité augmentée, de la VR, donc de la réalité virtuelle, de la vidéo, du NFC et de la blockchain dans des tableaux. Voilà. Ok, merci.
Par contre, il n'y a pas d'IA, là.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Hein. Ils pouvaient pas tout cocher. Ils ont donc 6 trucs dans leur hamburger.
On a un deuxième
c'est
projet.
C'est le mec qui l'a fait au tacos des technologies. Je veux un cordon bleu.
tacos 6 viandes. On a un truc qui s'appelle Solari, avec 2 A. Qui a créé un sabre laser plus grand que la vie elle-même.
Comment ça, c'est quoi ça?
C'est-à-dire que la description, c'est « a light saber bigger than life ».
Donc il y a des Français qui ont été à la French Tech pour présenter un sabre laser.
Non. Plus grand que la vie, s'il te plaît.
Je me suis contenté de prendre le document. Le document, je le mettrai sur le forum pour que vous puissiez rigoler aussi, parce que je pense qu'il va sauter d'Internet au bout d'un moment. Et enfin, le dernier que j'ai trouvé qui était marrant... Alors, encore une fois, c'est pas le projet que je juge, c'est vraiment la façon de le présenter.
Oui.
C'est un truc qui s'appelle « Magic Makers », parce qu'en fait... La description de Magic Makers, c'était une approche pédagogique innovante. Bon.
C'est tout ?
Oui.
C'est tout.
Voilà. Innovative, pédagogical approach.
Je trouve que c'est peut-être bien, mais
c'est vraiment bien, mais c'est juste
le pitch
catastrophique. Ouais.
Ah, t'es obligé de faire des one-line pitch, quoi.
Mais là,
ils auraient pu mieux le décrire.
Je sais même pas ce qu'ils font, Magic Maker, là.
Voilà, c'est le problème.
C'est une approche innovative et
voilà, c'est une approche. Les mecs, leur business, c'est une approche.
Pédagogique.
Par le blockchain.
Dans le fabuleux épisode 9 de la saison 2 de cette formidable série qui est Community, le héros avoue qu'il a inventé plein de faux UV dans sa fac pour pouvoir les valider et gratter des points facilement. À un moment donné, on voit à l'écran les intitulés des cours en question à base de History of Something, Principles of Intermediate ou Studiology 101. Et c'est exactement ce que j'avais l'impression de lire en parcourant ce doc de la French Tech. On jurerait des projets vides, montaient rapidement pour gratter des subventions au conseil régional et organiser des soirées mousses dans le réfectoire. Et on arrive à ce qui constitue le problème de fond de la French Tech, le financement et la gouvernance. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, c'est aussi l'avis de la Tribune, qui l'explique dans un article qui est paru en mai dernier, en disant, je cite, « Les métropoles French Tech sont souvent à la merci des forces politiques et économiques locales qui les financent, conseil régional, municipalité ou chambre de commerce et d'industrie. Elles ont donc tendance à devenir une arène politique et à être détournées pour devenir une vitrine pour les élus. » Fin de la citation. Moi, j'ajoute que, justement, c'est pas trop la peine d'ajouter que bien souvent, les élus en question ne pannent absolument rien aux nouvelles techno et au web, valident les projets n'importe comment, et voilà comment on se retrouve avec 354 startups qui pitchent du vent en plein milieu du Nevada au mois de janvier 2019. J'en rigolerais volontiers si c'était pas nos impôts qui servent à payer.
C'est vrai, en plus.
Les virer au bar du Bellagio d'une palanquée de fumistes en bras de chemise qui pensent révolutionner le monde à l'image de HypnoVR qui propose de faire des anesthésies sous hypnose par le biais d'un casque de réalité virtuelle. Vrai projet. Mais alors que faut-il faire, que vous me demandez, le regard embué par la désillusion et la perte des repères? Fuck would I know, que je vous répondrai du tac au tac. Je sais qu'à 404, on aime proposer des trucs, mais là, toutes les briques sont déjà en place. En fait, il faut juste que les personnes en charge s'en servent correctement. Le premier truc à faire quand même, ça serait peut-être de limiter le nombre de places dispo pour aller se mettre une race au Golden Nugget, déjà. Donc, je sais pas, peut-être en faire partir 100 au lieu de 350, ce serait déjà un bon point. Ensuite, j'imagine qu'avoir recours à des financements privés ou alors au moins sortir de l'équation les régions en empêchant des roitelets de choisir les projets en fonction de leur agenda perso sera un plus. Mais si la nature a horreur du vide, la fils de puterie aussi, malheureusement. Le vide ainsi créé ne le resterait donc pas longtemps et on se retrouverait rapidement avec d'autres gens qui suivent d'autres dessins aux commandes des projets. Ou alors, on charge une start-up de monter une IA décisionnelle en gardant en tête les valeurs propres à la French Tech et à ce qu'on souhaite qu'elle diffuse, et on la laisse sélectionner les projets dignes d'intérêt. Ça fera au moins un projet à peu près concret dans cette jungle de l'innovation à la française.
Bravo, Daz. quel beau tour d'horizon de la French Tech.
La French Tech.
J'essaie de retrouver le thread de Ed Zitron, qui est un des observateurs les plus connus au monde du CES et qui, à chaque fois, fait une compilation des pires startups du CES. Et apparemment, cette année, il a fait une spéciale French Tech quasiment à la fin. Il a fini sur 50 tweets que avec des trucs de la French Tech où il disait, mais qu'est-ce qui branle ces Français? C'est qui ces mecs?
Donc, on est quand même un peu la risée, technologie
alors,
mondiale, quoi.
Cette année, on a vu de plus en plus d'articles en anglais qui se foutaient de la gueule de la French Tech en disant, il y a des gars qui débarquent, on dirait qu'ils sortent d'un IUT et ils sont paumés. On dirait, tu sais, les collégiens qui montent leur projet scientifique.
Avec leur panneau,
ils débarquent avec tous les élus locaux, on leur a payé l'avion, le machin, et ils ont un stand de 50 cm carrés.
Mais en fait, c'est,
enfin. Faire une photo pour dire qu'ils étaient là-bas, quoi.
Il y a des gens qui disaient que justement, le corner French Tech, enfin, on parle plus d'un corner, parce que t'as 354 boîtes qui sont dedans.
C'est la moitié.
Le stade French Tech, ça ressemblait plus à un concours Lépine qu'à un truc de start-upper, en fait. Je pense qu'il y a un vrai problème de qu'est-ce qu'une start-up. Tu vois, le vrai souci de fond, c'est qu'est-ce que c'est qu'une start-up? Je veux dire, dans la liste des start-up, ils te foutent Quant, Withings, qui a été racheté par Nokia, donc qui a fait des levées de fonds dans tous les sens, et je sais plus quelle boîte. Il y avait, par exemple, Snips. Ça, c'est une start-up, pas de problème. Mais les autres, je veux dire, à partir du moment où t'es financé et racheté par des multinationales.
Le Lightsaber Bigger Than Life, là.
Ouais, il est incroyable, lui. Hein.
C'est incroyable.
C'était quoi le nom? Attends. C'était Solari.
Là, je le vois. Bah, regardez, voilà, il y a Eddie Tron qui a la French Tech qui a trouvé une caméra embarquée de bébé pour prendre en photo de la tête des parents.
Oui, je l'ai vu ce projet. J'ai passé en revue les slides de présentation et celui-là, je l'avais gardé
spoté.
Pour avoir une vue en first person de ton bébé, des souvenirs qu'il a. C'est génial. Donc, j'imagine que tu fous une caméra sur la tête du gosse ou enfin bon.
C'est, non, ouais, si vous connaissez pas, il s'appelle Eddie Tron.
Elle est brodée dans son épaule, dans sa turbulette.
Ah, c'est catastrophique parce que du coup, tu bousilles complètement l'image, parce que à l'intérieur de ce truc-là, dans les startups, il y avait certainement des bonnes boîtes, en fait.
Oui.
Le truc, c'est qu'à l'intérieur, t'as aussi des cabinets de consulting en intelligence artificielle. Génial, mais qu'est-ce que tu fous là? En fait, si t'as pas un produit à proposer, et surtout.
On rappelle que CES, c'est Consumer Electronic Show.
C'est l'électronique grand public. Donc, si ton projet, en plus, même si c'est un truc relativement concret, mais si t'as pas de marché, pas de vrai débouché consommateur public, viens pas, en fait. C'est pas la peine. Voilà.
Fibre, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, comme d'habitude, excusez-moi. Donc la première, elle est évidente, c'est que si t'es consultant en analyse ou si t'as n'importe quel produit, qu'il soit valable ou pas, il faut y aller. Parce que c'est là qu'est le business.
Business pour Solari qui fait des sabres laser plus grands que la vie.
Je vais venir. Mais en tout cas, il y a plus de business à Las Vegas pour des sabres laser qu'à Villepinte. Et le deuxième truc.
Non, mais là, ça remet pas en question le fait qu'au CES, il y a plein de business à faire. C'est juste que si tu vas là-bas avec rien d'autre qu'il fallait que ton élu prenne une photo d'un petit jeune local qui a fait le voyage à Las Vegas.
C'est un mal pour un bien. Je veux dire, il y a deux trucs à prendre en compte. C'est que déjà, les sabres laser, ça se trouve, c'est génial. Ça se trouve, c'est un produit fantastique. On va tous en acheter un. Et c'est quand même. Enfin, on sait pas, tu vois. Et quand une société française obtient des subventions de la France, en général, va payer ses impôts en France si ça marche. C'est pas débile, le système de subvention. Le système de subvention, il est là pour que les gens, ils aillent pas s'exiler, se faire racheter, des trucs comme ça.
En général. Hein.
Non, mais c'est parce que c'est une des conditions pour obtenir la subvention. Donc, déjà. Et enfin, le dernier point, je suis désolé. Alors, la méthode agile, on se fout de la gueule de la méthode agile. C'est un peu le doliprane, tu vois, des entreprises. C'est-à-dire que ça ne soigne pas le cancer, mais ça aide quand on a un rhume. Et aujourd'hui, c'est une stratégie intéressante de mettre tous ces produits à Las Vegas, de tous les montrer, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut marcher. La recherche scientifique, je trouve que je suis contre le prix Nobel qui se moque de certaines recherches, parce que parfois, toutes les recherches sont pertinentes. Et aujourd'hui, ça va tellement vite que la recherche théorique, elle est rattrapée par le... C'est-à-dire que les gens, ils ne font plus de recherche théorique, ils vont tout de suite à la pratique, ils construisent des trucs, on est tous des Elon Musk. Et donc, moi, je suis... Effectivement, il y a beaucoup de choses...
Il y a zéro chercheur là-dedans.
Il y a... Comment ça s'appelle ? Mais si, il y a des chercheurs, parce que aujourd'hui, tu as une idée, tu la mets en place, tu fais ta techno. Alors, il y a des colliers de chiens connectés, des tas de choses qui ont l'air un peu stupides, etc. Mais effectivement, s'il y a une ou deux pépites...
Non mais
vaut mieux envoyer tout le tas faire tapis, tu vois, t'envoies tout là-bas et au moins elles seront là-bas, tu vois. Et effectivement, je pense que
arroser tout, on finira bien par les tuer.
Et voilà. En fait, financièrement, c'est balle. Et en plus, on pourrait même rajouter, même diplomatiquement, excusez-moi, moi je trouve que c'est une démonstration de force.
Ah mais non, parce cette année spécialement, on est la résidue du monde.
Ouais, c'est ça le truc en fait. Si c'est une si bonne stratégie, pourquoi on est les seuls à le faire et pourquoi tout le monde se moque de
Alors, moi j'ai lu attentivement le trade de Edzitron. Edzitron, il arrive à
Non, il n'y a pas que Edzitron, il y a beaucoup d'articles.
Ouais, mais en tout cas, pour prendre ce trade qui est intéressant, parce qu'il a vraiment tout passé en vue, il se moque du CES et de cet esprit startup en général. Et comme effectivement on occupe les trois quarts des CES, on en prend plein la gueule. Mais en vrai, c'est juste parce qu'on est, on fait partie du grand Barnum. Mais moi, je pense que c'est une très bonne stratégie qui même économique, qui n'est pas un non-sens économique. Voilà.
Donc ça veut dire que pour toi, parce qu'il y avait des entrepreneurs français hein, qui justement étaient là-bas et complètement désillusionnés en fait, en disant putain, on est ridicule, machin, etc. Toi, tu penses que l'année prochaine, YOLO, on met 400 de plus, quoi.
En tout cas, je trouve que la stratégie...
Non, mais c'est intéressant parce qu'on verra ce qui va se passer pour la
fin. Il vaut mieux qu'on ait 400 que zéro. Voilà.
Fibrotic, c'est quand même un mec qui il admire donc il admire
Billy McFarland,
la technique de la French Tech, et il admire Billy McFarland du Fair Festival. Donc c'est quand même quelqu'un qui a
on voit à peu près où se situe sa boussole morale.
Mais hein, comme mais je suis comme Gandalf face à Gollum, je vous l'ai déjà dit, il faut voir le bon en tout.
Ah mais c'est façon d'être bienveillant. C'est pour ça que à la limite, je dis qu'il y a plus de place au CES pour les objets connectés débiles comme le pavé parisien qu'on a présenté au JDH, qui est enceinte connectée dans un pavé, au format pavé des Champs-Élysées.
Mais qu'on met dans la rue ?
Tu peux le jeter à quelqu'un, il est en béton le truc, tu peux le jeter à la gueule de quelqu'un, il n'y a pas de problème, mais en gros c'est un pavé qui balance de la musique.
En musique.
Pourquoi pas ?
Oh ce pitch.
J'ai plus de respect pour ce genre de truc que pour les 65 startups qui tournent autour de l'intelligence artificielle, où tu sais que de toute façon, en démo sur le stand, t'as pas de concret.
Mais moi, je n'ai pas de produit consommateur.
Je vous renvoie à ma chronique sur les robots tueurs. L'année dernière, la Chine a racheté 80 startups américaines sur l'intelligence artificielle.
Mais c'est pas du consumer. Le CIS, c'est du consumer. S'ils vont au symposium de l'intelligence artificielle où il y a IBM,
je pense pas que le truc de hanche soit destiné au marché
B2C. Ipsafe, hein. Déjà tu respectes, ça s'appelle Ipsafe.
Okay. C'est pas le truc de hanche.
Et c'est pas le truc de hanche, c'est le airbag de hanche, d'accord. Mais c'est du consumer market. C'est pas un truc.
C'est quoi Je vais même aller plus loin. Au lieu d'envoyer 500 personnes, on va faire le Consumer Electronics Show à Paris.
En vrai, c'était un geste politique.
Oui.
Enfin, c'était vraiment genre de la diplomatie. C'était genre, on va prendre juste de l'espace, quoi. C'était de la...
La géographie. En fait, à quel moment tu te rends compte que c'est contre-productif d'essayer de poser tes couilles sur le front de quelqu'un qui est plus gros que toi?
Mais en vrai, nous, on retient qu'on a l'air ridicule.
400 couilles.
Il y a des Américains qui disent, oh, il y a des Français. Tu vois? Et qui se disent pas, c'est ridicule. Ils se disent, il y a des Français.
Parce que pour les Américains, les Français et les Allemands, c'est la même chose, par exemple. Mais là, il y a des Français et pas des Allemands.
Oui, mais on se moque des Français. On se moque pas des Allemands.
Pendant que les Allemands présentaient, par exemple, les BMW connectés ou des trucs qui se conduisent tout seuls.
Clairement, on aurait pu faire une meilleure sélection à l'entrée. Mais voilà, moi, c'est... On avait des élus qui savaient...
La question, c'est ça. C'est que, en gros, Daz, dans ta chronique, tu condamnes pas la French Tech qui a été lancée à 4 ans. Tu condamnes les excès de la French Tech depuis 1 ou 2 ans qui sont... Envoyons des gens pour que nos élus puissent avoir une photo de leur pépite locale à Las Vegas, même si on sait même pas ce qu'ils font.
L'idée de départ de la French Tech, qui est justement de décentraliser le truc et de donner l'attitude à des villes de province pour développer l'innovation, les startups, l'esprit d'initiative, etc., c'est une très bonne idée.
C'est ce que tu dis dans ta chronique, quoi.
C'est juste que, à un moment donné, il y a peut-être quand même une sélection à faire, parce que c'est pas du free for all, quoi. À un moment donné, tu dis, OK, là, il y a 400 projets. On va garder que les 100 meilleurs, que nous on juge meilleurs. Ça veut pas dire arrêter de bosser. Ça veut juste dire vous irez pas à Vegas en fait.
Oui, c'est ça veut aussi dire les startups, vous allez peut-être un peu taffer vos produits. Ouais, parce que vous n'allez pas tomber parce que vous êtes la seule start-up de la région.
Il n'y a pas besoin de grand-chose pour pitcher, j'ai l'impression. Quand même.
Un comité de ouais, Studio 404.
Assez facile. Ah,
ça a l'air.
Ça serait énorme.
On pourrait. Studio
404 qui sélectionne. Ça donnerait
tellement cher. Tu vois, on reprend notre table de commentateurs du Fair Festival. Ouais. On l'enlève et on la pose à la French Tech et on devient Jerry French Tech. Je pense que je me régalerais encore plus.
Ou alors à l'inverse. Ou alors à l'inverse, on essaie de monter un projet et d'intégrer la French Tech.
En sous-marin.
En sous-marin.
C'est plus de travail.
On fait la nouvelle star de la French Tech avec, tu sais, le jury.
The Voice
de la chaîne.
Mais là, ça se pitch. Il y a des émissions comme ça aux États-Unis, au Japon, je crois.
Oui, bah il y a Apple qui avait tenté de faire sa première émission de contenu d'Apple, qui était un four d'ailleurs, qui était avec Gwyneth Paltrow et compagnie, qui avait un escalator, et c'était l'escalator pitch en fait. Les gens avaient la durée d'un faux escalator sur un plateau.
C'est hyper stressant.
Startup. C'est Apple qui a produit ça, c'était une catastrophe. Mais toi, Fibre, tu te retournerais toujours, toi.
Non.
Non, c'est pas mal.
Une caméra pour bébé en placement. Bon, voilà. Je vais prendre dans mon équipe. Je prends tout dans mon équipe.
Il y a du bon là-dedans. Ouais, c'est quand même un peu dommage parce que pour bosser un petit peu avec eux maintenant, avec le ministère de l'Internet, là.
Ouais.
La French Tech, c'est juste un petit morceau de ce qu'ils font là-bas, de ce que fait Mounir et tout. Et en fait, il y a des initiatives qui ressemblent plus à la culture française, en fait, à la France, qui sont plus tournées vers la solidarité, etc. Et qui sont complètement éclipsés par ce genre d'initiative qui est vraiment à l'américaine, quoi, qui est de la poudre aux yeux, French Tech, c'est hyper bling bling. Alors que le truc pour lequel je bosse s'appelle justement la mission société numérique. Donc ça ressemble un peu plus à 404 que la French Tech. Et c'est justement sur les délires de en local dans les zones rurales, comment tu vas faire en sorte que t'aides les vieux, que le numérique crée des emplois parce que en fait. Ta ferme, elle est en train de fermer, mais c'est pas grave parce que tu peux apprendre un autre métier avec Internet, etc. Et ça, c'est des choses qui sont complètement éclipsées par les trucs comme la French Tech, et c'est très dommage.
Donc tu vois, c'est contre-productif, c'est-à-dire que les mecs, ils ont l'alpha et l'oméga. Et
c'est ça. Et la French Tech, c'est pas forcément pour nous, c'est plutôt pour le reste du monde, non?
C'est pour rayonner international.
Je sais que tu avais dit que c'était le dernier intervenant, mais je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que quand même, c'est la Silicon Valley, c'est en Amérique que tout se passe au niveau de la tech et de la nouvelle technologie. Et effectivement, c'est bien qu'ils se déplacent aussi là-bas.
Ouais.
Parce qu'il faut rencontrer.
On n'a pas remis en cause le fait de se déplacer là-bas.
Il faut qu'ils arrêtent et qu'ils tuent le coq de la French Tech et qu'ils arrêtent tout déplacement. Je dis juste qu'il faut qu'ils le fassent de manière raisonnée.
Qu'ils n'en aient pas tout n'importe quoi, que ce soit pas motivé par des décisions politiques plutôt que des décisions d'innovation.
La cour des miracles, là, les pinces à linge connectés sont des. Ton linge est sec, hein, super.
Ce qui est un peu triste, c'est que tout le monde a essayé de créer sa Silicon Valley, tu vois, en Israël.
Des gros bisous à Sophie Antipolis.
À Paris, voilà, Sophie Antipolis, à Paris dans le sentier, le Silicon Sentier. On s'est dit, la Silicon Valley, c'est le modèle, on va créer des clones et on va essayer d'être leurs concurrents, alors qu'on pourrait proposer une contre Silicon Valley, en fait, une anti Silicon Valley, et retrouver cette exception française qu'on avait dans la culture.
Mais bien sûr, ça serait le général de Gaulle serait content, le rond-point.
Il serait content.
Ça serait une très bonne chronique pour le 404 de février.
On va créer un festival.
Qu'est-ce que serait la contre Silicon Valley?
Ah oui.
Non. On doit parler de sujets très importants en février.
Oui, c'est vrai.
Ah oui. Bon, allez, on s'arrête là en tout cas. Merci pour cette dernière intervention, Daz.
Studio 404, l'orientation de société numérique.
De rien.
T'arrêtes de parler sur les jingles, Daz?
De rien, je dis de rien.
L'année de la bienveillance, c'est aussi l'année du respect du jingle et du travail de Justin.
Oui, c'est vrai. Mais les jingles étaient en demi-teinte aujourd'hui, on les a pas tous.
T'es pas woke du jingle.
T'es pas woke du jingle.
Oh, Fibre.
fais le malin, Fibre. Fait le malin. Allez, c'est la fin de ce premier numéro de 404 de 2019. Encore un grand merci. Donc, comme vous l'avez entendu, à Ghislain, à la Réal, à Sam, à la prod et à l'organisation qui court après nos quatre chroniqueurs. Donc, Daz, Sylvain, Mélissa. Et Fibre, qui, encore une fois, ont brillé de mille feux. C'était vraiment très beau. On vous souhaite en tout cas un bon mois. Allez voir un peu ce qui se passe du côté de la French Tech. Regardez un peu ce qui se passe du côté des robots. Regardez ce qui se passe du côté de vous, tout simplement, la génération, pas des millennials, mais la génération du burn-out. Nous, on se retrouve donc en février ensuite. Peut-être le 21 février. On essaie de prendre des dates pour faire un enregistrement en public. Dans quelles conditions? On ne sait pas encore.
On n'en a aucune
dans
idée.
La série, on prend des dates, mais pas le reste. Le 1er au 5 mai pour le camp numéro 5. On ne sait pas encore comment et où.
Mais je serai là.
Alors là, si Mélissa est là.
Incroyable.
Si Mélissa est là, vous avez intérêt à être là parce que c'est un moment.
On va avoir des grands débats.
Franchement, même si elle le dit, j'ai envie de faire le pari. Tu vois, je suis pas certain. C'est un peu.
Moi, j'y crois pas.
Quoi?
Moi, j'y crois pas.
T'es un peu le chat Schrödinger du camp.
Ouais. C'est clair. On verra en tout cas. Et on vous donne en tout cas rendez-vous tout de suite dans le forum. évidemment, pour venir discuter des sujets. On vous donne rendez-vous dans le Discord pour s'échanger des images cochonnes sous prétexte de parler de choses intéressantes, hein, Fibre.
Mais pas du tout.
Et si on changeait le forum?
Moi, je suis présent sur le forum.
T'as une très bonne sélection d'images, Fibre. Vraiment, j'aime beaucoup. Et on vous donne rendez-vous, bien sûr, sur Twitter, Instagram, tous ces réseaux qui donnent du sens à votre vie, bien sûr.
Merci. Vos vies épanouies.
Et oui. Allez, on vous fait des gros bisous.
Bisous.
Et à très vite. Ciao.
Ciao, ciao.
Bisous.
Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.